Je suis Adrien Garcia, entrepreneur, designer et cofondateur de la marque de vêtements Réunis. Et vous écoutez The Bold Way. L'avenir appartient à ceux qui remettent en cause l'ordre établi. Mais comment réinventer les règles, créer des projets iconiques et des œuvres qui marqueront l'histoire? The Bold Way est le podcast qui rentre dans la tête de ceux qui excellent dans leur domaine. Mode, divertissement, food, design, art ou business. Leur point commun? Le travail, l'audace, l'innovation et une attention toute particulière à la créativité et à l'esthétique. Ma mission est de décortiquer leur méthode et leur état d'esprit à travers des interviews longues et sans filtre, pour vous donner les clés de leur succès et vous inspirer à créer votre propre chemin. The Bold Way est plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement qui encourage chacun à trouver sa propre voie, à tracer son propre chemin et à innover dans son domaine. The Bold Way est là où la créativité et l'innovation rencontrent le business. Bonne écoute. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans The Bold Way. Je suis aujourd'hui avec Géraldine Saratia.
Bonjour.
Bonjour. Comment ça va?
Super, et vous?
Très bien, ça va super, merci. Je suis ravi de vous interviewer. Ma première question, pour mettre un peu de contexte, c'est où est-ce qu'on est, Géraldine?
Alors, on est chez moi, ouais. À Pantin, ouais. Voilà, près du canal de l'Ourcq.
Très bien, parfait. Et alors, qui vous êtes? Comment vous vous présentez au monde? Comment tu te présentes en se tutoyant?
Ah oui, on peut se tutoyer, ouais. Bien sûr. Je suis journaliste depuis une vingtaine d'années, spécialisée dans la culture, on va dire. J'ai aussi monté ma structure, après avoir passé 15 ans chez Ozin Rock, ouais. Et un peu à Radio Nova. J'ai monté une structure qui est une boîte de production et je produis pas mal de podcasts, dont par exemple le Goût de M pour M le Monde, mmh. Et puis pour d'autres clients aussi privés, voilà.
Très bien. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené à ça? T'es né où? T'as grandi où? Et qu'est-ce qui t'a amené à ce monde de la culture, à ce monde du journalisme?
Alors moi, je suis né à Biarritz. J'ai grandi à Biarritz, donc je suis basque. Et comment est-ce que c'est venu? J'avais une grosse passion pour le cinéma, adolescente, et pour la musique, énormément. La musique, c'était vraiment très, très important pour moi. Et du coup, mon rêve, en fait, pendant que j'étais au lycée, c'était d'être journaliste culturel, de faire des chroniques de disques, de trucs comme ça. Et je me souviens que, enfin, à l'époque, on me disait c'est hyper fermé, enfin, genre, c'est impossible comme truc,
impossible.
Tout ça. Bon, voilà. Donc, j'avais un peu mis le truc, on me disait, y a très peu de monde qui arrive à faire ça, tout ça. Bon. Et puis, en fait, après, je me suis orientée, j'ai fait des études de lettres et après j'ai fait des études de je suis rentrée dans un pôle de production audiovisuelle, journalisme, communication et en fait moi j'étais rentrée pour faire journalisme et en fait je me suis réorientée en production audiovisuelle parce que j'apprenais plus de trucs en production audiovisuelle, ça me plaisait bien. Et ensuite, j'ai commencé, c'est un peu long, mais j'ai commencé à bosser au CNC un peu, et en stage, en vacation et ensuite...
C'est quoi le CNC?
Le Centre National du Cinéma.
D'accord.
Au service des subventions, enfin bon voilà. Et puis j'ai commencé à travailler dans une boîte de prod, j'ai été chargée de prod pour des émissions de télé. Et finalement, un jour, la rédac chef, qui était une personne que j'adorais, qui a disparu aujourd'hui, m'a dit, mais tu t'ennuies, toi, là, qu'est-ce que t'as envie de faire? Tu veux aller où? Ton rêve, c'est... Je lui ai dit, moi, je travaillerais aux Ozin Rock, si je pouvais. Et elle m'a dit, appelle, c'est une amie à moi, appelle-la, tu verras bien. Et donc, j'y suis allée. Et cette femme qui a été très importante pour moi, Sophie Dufaux, m'a dit, si tu viens en stage, moi j'avais déjà 25-26 ans à l'époque, si tu viens en stage, dans 6 mois maximum t'es dehors, donc réfléchis si tu peux pas trouver un autre truc. Et j'ai trouvé un contrat d'alternance en fait, que j'ai fait avec le CFPJ, donc le Centre de Formation des Journalistes Professionnels à Paris. Et du coup, je suis rentrée aux Ozin Rock comme ça, je suis restée 2 ans et ensuite à la fin de mon contrat, ils m'ont
intégré. Ouais.
Donc ça c'est le projet professionnel, mais c'était vraiment, j'étais vraiment passionnée de musique.
Ouais. Mais t'en faisais de la musique toi?
Ouais, j'en faisais un peu, enfin je jouais de la guitare, j'avais joué un peu dans des groupes comme ça, pas non plus de manière
professionnel,
mais c'était quand même quelque chose qui était super important, vraiment mentalement super important.
C'était qui tes groupes favoris à l'époque?
c'est presque impossible pour moi de répondre parce qu'il y en avait tellement.
Plein, d'accord.
Ouais. Mais les goûts des Ozin Rock étaient assez les miens, quand même, en fait, de manière générale. Et puis après, quand je suis arrivé à Paris, plus de musique électronique aussi, beaucoup. Ouais. Mais sinon, aujourd'hui, comme je vieillis, je réécoute les trucs vraiment importants de mon adolescence. C'est le Velvet, c'est les Doors, c'est Louride, je réécoute Bowie tout le temps. Enfin, ça, c'est des trucs que je réécoute tout le temps.
Mais c'était même pas de ton époque, en plus, c'était des.
Non, ouais. Mais qui ont été marquants pour moi à l'adolescence. J'ai l'impression que les artistes qui vous ont, en fait, en gros, les premiers chocs que votre cerveau a pris vraiment, c'est des émotions qui sont presque indépassables, j'ai l'impression. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a rien qui va me plaire autant que David Bowie, par exemple. Mmh. Jamais. Mmh. En fait, il y a un truc...
C'est le summum, c'est vraiment le top du top pour toi.
Par exemple, oui, ou je sais pas, je réécoute beaucoup Transformers de Lou Reed en ce moment, bon... Et en fait, je me dis, bon, cet album, il est presque parfait. Enfin, après, j'écoute aussi des trucs plus actuels, hein. Mais c'est des, je sais pas comment dire, c'est une mémoire émotionnelle, je pense, qui est.
C'est les premiers chocs, en fait.
Je pense, ouais. Moi. C'est presque, on pourrait presque dire ça dans tous les domaines. Enfin, il y a un truc peut-être lié à l'adolescence, justement. Enfin, c'est pulsionnel aussi, hein. Je pense, voilà, c'est cet âge, comme ça, où on se sexualise, voilà. Bon. Et ben, je pense qu'à cet âge-là, on ressent les choses d'une manière très, très forte. Alors, il y a les choses de l'enfance aussi, même musicalement. Mais j'ai l'impression, enfin, en tout cas pour moi, c'est plus lié à l'adolescence et puis au début aussi de quand on essaye de se trouver, quoi. Enfin voilà, donc c'est les goûts deviennent importants à ce moment-là. Enfin,
très bien.
Voilà, l'été en tout cas.
Les goûts. Alors ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit jeu. J'ai écrit plein de mots, c'est plein de sujets que j'avais envie d'aborder avec toi.
D'accord.
Écoute, tu peux en tirer où tu veux. Ça peut être au-dessus, en dessous, peu importe.
Ok.
Et ensuite, tu me dis ce que ça t'évoque et on va diguer un petit peu ce sujet.
Ah bah culture.
Ah bah culture.
On vient de le faire.
On vient de le faire.
Bah culture.
Pourquoi c'est si important pour toi la culture? Parce que tu baignes dans la culture, tu fais partie de la culture contemporaine.
C'est l'oxygène, quoi. Enfin, vraiment, c'est une façon de... Moi, je sais pas, c'est une façon de à la fois d'aborder, de comprendre, de ressentir le monde, je crois, en fait. C'est vrai que moi, j'ai besoin beaucoup d'avoir des sollicitations et d'avoir des inputs, comme on dit. Donc, ouais. D'avoir des, je sais pas, des nouveaux trucs que je vais écouter, rencontrer des gens, beaucoup aussi, hein, parce que maintenant, je rencontre beaucoup de gens, j'interviewe beaucoup de gens. C'est très, enfin, tu le fais toi aussi, c'est très enrichissant.
C'est génial.
C'est aussi comme continuer à faire des études, hein, d'une certaine façon.
Bien sûr.
On rencontre. Parmi tes invités, Pierre Hardy, India Madhavi, enfin, des gens qui sont comme ça des cadors dans leur domaine, et on apprend plein de trucs à chaque fois. Ne serait-ce que pour aller les rencontrer, on doit travailler, on doit se mettre pas au niveau, mais en tout cas essayer de comprendre un petit peu, défricher leur discipline. Donc ça, c'est des choses que je sais pas, c'est de la curiosité, je pense aussi. C'est de la curiosité, c'est une sensibilité pour des formes, pour qui sont développées, pour des esthétiques. C'est du plaisir.
Ouais. Enfin, c'est boulimique de culture, toi.
Assez, ouais, quand même. Ouais.
C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que tu vas voir toutes les expositions, concerts, tous les...
Non, pas du tout. Ça, en plus, je trouve que ça évolue en fonction des... Enfin, moi, des âges de ma vie. J'avais une consommation, par exemple, musicale qui était beaucoup plus boulimique, si on emploie ce mot, mais en tout cas intense. Bah, quand j'étais aux In Rock, c'était vraiment très intense.
C'est ton métier, en plus.
Oui, c'est mon métier.
Il fallait tout écouter, tout lire...
Pas tout, mais on recevait énormément de disques, on devait déjà en sélectionner pour écrire dessus, écouter les autres, on allait beaucoup voir des concerts, c'était aussi notre mode de vie, il y avait tous les gens avec qui j'étais dans ce journal, enfin il y a un truc, on était jeunes, enfin il y avait un truc de grand appétit de ça comme ça. Aujourd'hui, mes objets ils se sont un peu déplacés, un petit peu, c'est-à-dire que je suis plus intéressée par les livres par exemple, que je vais moins dans des concerts, j'y vais encore un peu, mais j'y vais moins, j'ai plus envie de lire, oui pourquoi pas aller voir des expos, des films aussi, pas mal, ça m'intéresse beaucoup le cinéma, donc voilà, mais je dirais que j'ai besoin tout le temps de... Je suis pas tellement quelqu'un qui sait ne rien faire. Quand on me dit ne rien faire, pour moi, c'est je vais regarder une série, je vais lire des bouquins, j'arrive pas à je sais pas ce que c'est ne rien faire. Et donc, en fait, j'ai tout le temps besoin d'avoir de me plonger dans quelque chose, en fait. Voilà.
Tu t'intéresses à tout type de culture?
Non, je peux pas dire ça. J'ai mes goûts et mes intérêts aussi, quoi. Donc, tout type, non, je peux pas dire ça.
Non, mais tu parles de séries, par exemple. Tu vas regarder toutes les séries les plus populaires.
Non, j'ai eu une époque où j'en ai regardé énormément. Puis, un moment aussi où ça a beaucoup explosé en France et tout ça. Puis, même quand il y a eu les grandes séries, tu sais, les Six Feet Under, les The Wire, les Sopranos, enfin pour moi qui restent des trucs assez indépassables finalement. Et puis après, donc j'en ai pas mal, c'était assez compulsif ce truc. Après j'ai trouvé ça presque trop compulsif en fait, parce que moi je sais pas trop m'arrêter en fait, quoi. Je commence, je peux regarder 8 épisodes, enfin tu vois. Et donc du coup j'ai, à un moment la série c'était un truc qui m'a un peu lessivé, quoi, un peu, ça prenait plein de mon temps et je me disais mais qu'est-ce qui m'en reste finalement? Pas grand chose. Après il y en a certaines qui sont géniales, hein, c'est pas ça que je dis, mais finalement, je crois que... Enfin là, je suis retombée dans Baron Noir là, pendant les vacances, que j'avais pas vu, et je trouve ça fantastique. Mais ou le Bureau des Légendes, que j'ai trouvé complètement fou dans les trucs récents. Mais je crois que je préfère le... Enfin, je préfère. Aujourd'hui, je préfère plus le plaisir du film, je crois, quelque part. Quoi,
d'accord.
Qui
c'est une histoire, c'est un cadre qui est...
Ouais, je sais pas comment dire. C'est, si c'était du... Hein, ça séchait de thé, ça se... c'est pas la même façon de se déployer en vous, en fait. Je trouve que ça dure plus longtemps. Je sais pas si je vais voir Anatomie d'une chute, là, qui est un film qui a beaucoup marché et tout ça. Quand je l'ai vu, ben, je sais pas, c'est les 2-3 jours qui suivent, j'ai un truc qui commence à se déployer, et puis j'y réfléchis, et puis j'y pense, et puis je sais pas, c'est un plaisir. Puis ça me prend moins de temps aussi.
Ouais. Oui, enfin, oui, c'est vrai.
Mais bon, mais j'aime bien les séries aussi, voilà.
Et ça te gêne quand les gens n'ont pas de culture ?
Dans quel sens tu veux dire ?
Ça t'agace ou...
Non.
Non.
Ah non. Non, 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 non. Non, ce que j'aime pas du tout, c'est quand les gens, ouais, présupposent, vont dire de toute façon, t'as pas lu ça, ou t'as pas... Enfin, je sais pas, je trouve que... Non, ce qui est chouette, c'est si on voit que quelqu'un a pas lu ça et qu'on pense que c'est cool, c'est d'essayer de faire qu'il découvre, quoi. Mais non, ça me gêne pas, en fait. Après, c'est vrai, à Paris, je côtoie beaucoup de gens qui en ont pas mal, hein. Mais pas que, non plus.
Ouais.
Et en fait, non, je dirais pas ça.
Très bien. On passe à un autre mot, parce que tu parles beaucoup.
Ben, je savais pas comment ça marchait.
Si, si, non, mais carrément, c'est très bien.
Ben, je peux faire plus court sur chaque mot, moi, je pensais
que... Non, 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 c'est très bien.
Bonheur. Mais c'est quoi ce matin, là? On a vraiment, c'est la philosophie...
Ouais.
Bah écoute, bonheur.
T'es heureuse
c'est une question pour nous tous. Hein. Pareil, c'est un truc, c'est des moments, je pense qu'il faut pas... On n'est pas tout le temps heureux, il y a des moments, il y a des périodes où on est plus ou moins heureux dans sa vie.
Qu'est-ce qui te rend vraiment heureux?
C'est un équilibre, je pense. C'est la sensation d'être... que je suis là où je dois être, que je suis...
T'es là où tu dois être aujourd'hui?
Bah, en tout cas, oui, je me sens libre, je fais des choses que j'aime faire, et puis, bon, maintenant, en plus, ça s'en changera peut-être, mais je suis indépendante, c'est une position qui est, enfin, que tu connais aussi, je crois, mais qui est particulière, mais en même temps, on n'a pas de patron, donc c'est une sensation de liberté qui est assez grande. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de stress, de boulot, tout ça, machin, mais c'est un truc que j'aime bien, d'essayer de mener ma petite barque, et puis d'aller là où j'ai envie d'aller, de travailler avec qui j'ai envie de travailler, parce que ça, c'est cool aussi quand tu fais ta structure, tu choisis tes collaborateurs, tout ça, bon, ce qui n'est pas toujours le cas quand tu arrives dans une entreprise, enfin voilà. Et puis, les gens avec qui je travaille, j'ai des bonnes relations avec eux. Après, c'est le bonheur. Je pense qu'on arrive, à comment dire, à atteindre le bonheur qu'on a réussi à déployer en soi d'abord. Donc en fait, c'est à partir du moment où tu commences à être bien avec toi-même, tu peux commencer à être heureux amoureusement, professionnellement. Voilà, moi je crois d'abord que ça part de soi.
Ouais. D'ailleurs, ce choix d'être indépendant, là, comment c'est arrivé? Tu peux nous raconter, parce que ça fait 15 ans aux Inrock et puis après quelques années chez Nova.
Oui,
en tant que salarié, c'est ça. Hein,
oui, tout à fait. Moi, j'étais salarié aux Inrock et puis en fait, j'étais toujours salarié aux Inrock quand je travaillais avec Nova, puisqu'ils faisaient partie du même groupe. Donc voilà, c'était un truc que je faisais en plus. Et il y a eu un plan de cession en fait qui a été proposé aux Inrock. Je sais plus en quelle année. Je crois que je suis parti il y a 5 ans maintenant à peu près. Et du coup, il était assez avantageux. En fait, socialement, quoi, par rapport au chômage, par rapport aux indemnités, par rapport à tout ça, c'était une possibilité de sortie. Moi, ça faisait quand même 3-4 ans que dans ma tête, je cherchais une possibilité de sortie, sachant que j'avais un bon poste, quoi, de rédac chef, tout ça, donc bon.
C'est-à-dire quoi, rédac chef, d'ailleurs?
Il y avait plusieurs rédac chefs dans le journal, mais bon, je veux dire, c'est un poste qui est bien, que tu peux pas retrouver en 2 minutes, donc quand tu te demandes quand tu sors, comment tu sors, en fait. Voilà, donc tu vas pas juste partir et avoir rien derrière. Enfin, en tout cas, moi, c'était pas trop mon trip. Et du coup, ben là, quand il y a eu ce plan-là, je me suis vraiment posé la question et je me suis dit que c'était le moment de sortir, quoi. Voilà. Et puis, du coup, ben, j'ai pris le plan et j'ai monté une structure en sortant, quoi. Et j'ai continué. En fait, je me suis rendu compte que finalement, j'avais commencé à développer un peu déjà une façon un peu freelance de travailler depuis 2-3 ans, quoi. C'est-à-dire en travaillant à la fois à la radio, en commençant à bosser un peu, à diversifier un peu. Et donc finalement, bah, ça s'est fait assez naturellement, quoi. Voilà.
Entreprendre. T'as l'impression d'entreprendre? Non, c'est du free, ça, c'est plus...
Entreprendre, je sais pas, non. Enfin,
tu fabriques des choses,
je fabrique. Oui, je fabrique. Ouais, voilà, je fabrique.
T'es artisan?
Oui. Artisan digital.
Non, mais artisan, moi j'aime bien dire, je suis artisan du podcast, j'aime bien.
Oui, il y a tout à fait cette dimension, parce que j'aime bien. C'est ça, on est à un niveau artisanal, hein, quand même, même si on est parfois 4-5 à travailler sur un podcast, un gros podcast, voilà. Donc on travaille quand même dans une équipe, mais chacun avec des compétences artisanales et avec un goût aussi de bien faire les choses. Moi j'ai l'impression, et puis on n'est pas dans un volume industriel, quoi, c'est ça, c'est artisanal.
Artisanal, très bien. On continue?
Ouais.
Vas-y. J'ai peur des mots qui sortent maintenant.
Esthétique.
Là. Ah, esthétique. Pourquoi pourquoi c'est important pour toi chez toi? Par exemple, là, on est chez toi. Est-ce que
t'as l'impression... Ça, c'est mon podcast.
Ouais, ça, c'est ton podcast. Non, est-ce que t'as l'impression de... Ouais, est-ce que c'est important pour toi, l'esthétique?
Oui, assez, quand même. Assez. Des formes, on en parlait tout à l'heure, j'ai une sensibilité à ça. Des objets, des choses, des avoir une... Oui, avoir envie d'être entouré par des choses qui me plaisent. Oui, j'aurais du mal à être entouré de choses qui me plaisent pas. Mais... Donc oui, c'est important. C'est une source de plaisir pour moi. Après, je comprends aussi que c'est vachement une défense, l'esthétique. Pour soi, c'est aussi... Bon, ben après, voilà, c'est une façon de se distinguer. C'est une façon... Mais c'est aussi une défense, quelque chose qui rassure par rapport au réel, par rapport au... Et donc, je m'en méfie aussi vachement, dans le sens où c'est moins important... C'est pas si important que ça, en fait, quoi. Ça doit pas... tout conditionner ou empêcher d'aller vers quelqu'un parce qu'on n'aime pas comment il est fringué ou parce que on partage pas exactement le même goût. J'en suis un peu revenue de ça. Je l'étais peut-être un peu plus avant, comment dire, dans le diktat, enfin, c'est un mot fort, mais de l'esthétique, quoi, de se dire l'esthétique, c'est hyper important.
On se ferme des choses, non?
Ouais, exactement. Et
je me rappelle.
L'esthétique qui divise. Voilà, ça m'intéresse plus.
J'étais, moi personnellement, j'étais toujours. Ça m'énervait quand les gens disaient moi je préfère les blondes, les brunes, les rousses, etc. Tu sais, c'est complètement débile, vous vous fermez vachement les portes, quoi. c'est dommage.
Oui, puis c'est. Oui, non, ça n'a pas trop de sens, quoi. C'est la fétichisation des choses, enfin, c'est plutôt inquiétant, quoi. Enfin, je veux dire, ça m'intéresse peu. Il y a des artistes qui en font des trucs très intéressants. Mais je veux dire. Dans la vie, ça m'intéresse peu, quoi. Et
Mais tu vois, dans la musique, par exemple, les goûts, tu vois, moi j'aime que le rock, par exemple. Enfin,
c'est vrai.
Moi, j'aime beaucoup le rock. Enfin, tous les gens dont tu parlais, tu vois, David Bowie, les Velvet, les Doors, etc. J'ai été aussi nourri par ça. Mais je dis ça, je force le trait, mais j'aime d'autres choses. Mais il y a des gens qui disent, moi j'aime que le rock, qui sont complètement fermés, ils s'enferment, quoi. C'est terrible.
Mais c'est ça, en fait c'est ça, on arrive à ça, c'est tout de suite, on arrive à ça, c'est ouverture, fermeture, c'est-à-dire l'esthétique, la beauté des choses, oui ça m'intéresse, mais après je pense qu'il ne faut pas que ça devienne quelque chose de... Ça m'ennuie quand ça devient dictatorial, quand ça devient trop excluant, quand ça devient, comme tu dis, ce que je trouve riche, c'est quand on arrive à s'ouvrir, quand on arrive à se déplacer, quand on arrive à se dire, ah ben finalement ce truc-là, j'ai l'impression que ça ne m'intéressait pas, et puis en fait, finalement, ça me plaît, ou après tout ne peut pas plaire, il ne faut pas déconner non plus, mais... Je trouve que la position que j'aimerais ou que la meilleure, c'est que quand même de pas se fermer, que ce soit pas un truc trop d'exclusion.
Il y a des choses que tu détestes quand même.
Je sais pas si je déteste beaucoup de choses maintenant. C'est-à-dire fonctionner aussi sur ce registre amour-haine.
Oui, des choses que t'aimes moins.
Tout ou rien. Ouais. Ça aussi, ça non, je m'en méfie vachement de ça. Après, des choses que je déteste, des trucs qui m'intéressent pas, je dirais, mais que je déteste. Pareil, vachement moins. Je trouve que c'est vachement une façon de se positionner soi ou de se mettre en scène, de dire je déteste ça, j'adore ça. Enfin, parce que les trucs que je déteste, je sais pas.
Il y a des choses que t'aimes moins dans ta vie aujourd'hui, tu vois, quand tu entreprends, dans ton quotidien et dans ton avis professionnel.
C'est-à-dire des choses que j'aime moins.
J'aime pas, par exemple, parler argent. J'aime pas faire la compta. J'aime pas.
Alors oui, c'est-à-dire que ça c'est un peu le problème quand on est une toute petite structure, c'est que on doit faire énormément de choses, énormément. Et en fait, c'est ça le plus fatigant, je trouve. C'est dans son cerveau, il y a 2000 tableaux ouverts tout le temps et trucs auxquels il faut penser. Et c'est quand on est à une dimension où on s'en sort bien, mais on s'en sort pas assez pour avoir 5 personnes qui travaillent pour vous et qui font tous ces trucs, quoi. Donc effectivement, tout ce qui est administratif, tout ça, j'avoue que j'adore pas. Non. Ouais. Donc moi, ce que je préfère, en tout cas, c'est être vraiment quand je dois inventer une idée, une direction artistique, se dire on va faire ça comme ça, on va faire tel générique, on va utiliser tel type de musique, on va travailler avec tel artiste.
Toute la partie création.
Ouais. Ça me plaît à fond. Le reste, ça me plaît moins.
Ouais. Ça ressemble à quoi d'ailleurs ton processus créatif? Quand t'as un nouveau projet qui arrive, comment ça se passe?
Ben, par exemple, je peux te raconter, même pour le Goût de M, par exemple, qui est un projet éditorial. Après, il y a des projets pour des clients, mais c'est la même chose. En fait, par exemple, on parle avec Marie-Pierre Lannelong. Elle me dit, bon, j'aimerais que tu travailles sur l'idée du goût, parce qu'elle était en train de développer cette marque-là. Et en fait, ben, moi je suis, je lui ai dit ok, on s'est revu deux semaines plus tard je pense, comme ça. Moi j'ai lu plein de trucs sur ça, hein, sur le goût, tout ce que ça m'évoquait, comme une espèce de brainstorm un peu, tu vois, géant quoi.
Tu prends des notes, tu fais des tableaux.
Ouais, je prends des notes, ouais, j'écris, je lis des trucs, je prends des notes, et puis après au bout d'un moment j'essaie d'écrire en fait un espèce de synopsis, de pitch quoi, de pitch de à quoi ça va, de quoi ça va parler, ouais. Comment ça va, les questions en fait, et puis qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans vraiment. Et donc on en a reparlé, moi je suis arrivée avec tout ça, et elle me, voilà, en lui disant tout de suite, bah, parce qu'avant j'avais fait un podcast qui s'appelait Dans le genre sur Nova, qui était sur la notion de genre beaucoup, et là je dis bon bah le goût, on va être plus sur, à la fois évidemment toutes les questions dont on a parlé, d'esthétique, tout ça, mais effectivement on va être plus sur la classe sociale, enfin on va être sur la distinction, on va être sur c'est plus sociologique le goût, enfin ça situe tout de suite, enfin bon voilà. Donc on a parlé de tout ça, des grandes directions, et puis après moi j'ai construit un espèce de questionnaire en l'occurrence, ou de, parce que là c'était quelque chose qui était ritualisé. Moi j'aime bien les formes ritualisées aussi, je trouve que elles sont pas obligatoires bien sûr, mais c'est un espèce de plaisir que j'ai moi-même à les retrouver, hein, comme
dans les émissions,
dans les narrations qui nous composent quoi, depuis enfin dans notre société, dans notre civilisation, je veux dire, même puis les contes dont on est enfant, c'est des formes très ritualisées qu'on connaît en fait, et je trouve qu'il y a un plaisir de ça, de savoir non pas ce qui va se dire, mais de savoir que là on arrive, ah ben là ça va être la fin, là ça va être, ah ben là qu'est-ce qui va répondre. Bon, j'aime bien ce système là de résonance, et puis j'aime bien créer l'idée d'une collection aussi, enfin là en l'occurrence c'était pour Le Monde, mais voilà. Donc bon, ça c'est là j'avais créé une trame, et ensuite si tu veux c'est réfléchir qu'est-ce qu'on fait comme habillage, c'est-à-dire qu'est-ce qui musicalement là l'idée c'était, je cherchais un truc qui soit un peu transgénérationnel, qui soit pas, je voulais pas un truc qui soit marqué de l'époque, de l'année dans laquelle je le créais, tu vois, pas prendre un titre de musique électronique de cette année là par exemple, donc quelque chose qui puisse parler à plein de gens, en même temps quelque chose qui soit très narratif, qui soit un peu cinématographique, enfin bon voilà, et finalement on a pris cette musique là, bon voilà, et donc tu vois c'est quel mot on dit dans le générique, enfin voilà, je réfléchis comme ça à chaque fois.
Là la musique vous l'avez créée pour le podcast?
Non, on l'a clearée, c'est une musique de Gotan Project.
D'accord, ok, trop bien. Et c'est vrai que c'est un podcast qui fait l'unanimité, j'ai l'impression tout le monde l'écoute et prend du plaisir à l'écouter. Ouais. Non mais ça fait combien de saisons que tu fais ça?
C'est la cinquième saison.
À un moment donné, quand ça dure comme ça, que c'est un podcast de marque, c'est ça a rencontré son public.
Oui, c'est un podcast média en plus, donc c'est vrai que c'est encore différent d'un podcast de marque. Oui, c'est encore un peu différent, et donc oui, si ça continue, c'est que la rédaction est contente, et puis que oui, il y a des gens qui écoutent, bien sûr.
Bien sûr. Ça fait beaucoup d'écoutes?
Ça fait pas mal d'écoutes, ouais. Alors moi, je sais pas exactement.
Tu sais pas exactement. Ouais.
Non.
Ok.
Non, l'année dernière, on était à peu près, c'était un peu plus de 150 000 par mois, mais depuis, je ne sais pas, parce que j'ai pas les chiffres tout le temps. J'avoue que je m'en occupe pas trop.
Ouais. Tu regardes moins, ça t'intéresse moins les audiences, etc.
Je regarde quand je les ai très attentivement, quand ils me font un bilan ou comme ça, mais c'est vrai que je les ai pas au jour le jour, et que en fait, je m'en occupe pas, c'est très bien en fait, parce que moi je reste concentré sur ce que je fais.
Sur la création.
Ouais.
C'est vrai que c'est pas mal de faire ça.
Les deux peuvent être intéressants, hein, parce qu'après c'est intéressant de regarder, mais pas en temps réel, ça, non.
Ça te stresse ?
Non, c'est pas que ça me stresse, mais j'en ai pas besoin en fait. Ils me demandent pas de faire ça, donc c'est très bien quoi. Mais...
Trop bien. Et il y a des invités qui sont peut-être plus bankable que d'autres ?
Oui, forcément, un peu plus. C'est-à-dire des gens qui ont une très grosse notoriété, des gens qui ont une très grosse présence digitale. Ça peut jouer aussi aujourd'hui. Parfois, on a des surprises aussi. Hein, c'est-à-dire que je trouve que, je ne sais pas ce que tu en penses, mais aujourd'hui, la notion de notoriété, elle est super relative. Quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui va peut-être être, pour de la presse écrite, par exemple, ils vont dire, ah ben, lui ou elle, elle est assez connue. Mais finalement, ben, sur du digital, parce que ce n'est pas les mêmes publics, forcément. Je pense que c'est en train de changer, mais ce n'est peut-être pas les mêmes personnes qui lisent le magazine, qui écoutent le podcast. Voilà. Ça peut être des gens plus jeunes, ça peut être des bons. Et donc, du coup, la notion de notoriété, moi, je le vois des fois quand j'ai des stagiaires ou des gens jeunes qui travaillent avec moi et tout, je leur dis... Je leur cite des noms, je teste des noms d'invités sur eux, et je vois que par exemple des gens qui pour ma génération sont super connus, ils me disent, je sais pas qui c'est. Voilà, alors je dis, bah alors c'est qui est important pour toi? Et moi je vois que parfois je sais pas du tout de qui ils me parlent.
Ouais.
Donc en fait c'est aussi, enfin je sais pas comment tu le ressens toi par rapport à ton podcast justement. Est-ce que c'est des gros noms, ça marche toujours, ou est-ce qu'en même temps des fois il y a des noms plus émergents mais qui vont être très connectés et ça peut aussi très variable. Ouais. Et aussi, je pense qu'il y a aussi un phénomène en podcast qui est, une fois que le podcast est installé, comme le tien aussi, c'est que je crois que les gens, ce qui les intéresse, c'est aussi ton angle. Mmh. Et donc, ils viennent, ils connaissent pas tous les gens, en
bien
fait.
Bien sûr, mais ils te font confiance.
Ouais, et ils vont écouter, en fait.
Ils prennent du plaisir à t'écouter.
Je crois, hein. Enfin,
et puis, ils sont amoureux de toi aussi, non, quand même. Il y a quand même un truc avec ta voix, ta façon de t'exprimer. T'es quelqu'un qu'on a envie d'aimer.
Ah bah c'est gentil.
Non mais c'est vrai, quand on écoute Géraldine, ta voix elle est incroyable. Tu l'as travaillée ta voix ?
Non. Enfin, je l'ai dit, on m'avait demandé, je me rappelle, c'était un truc de Télérama là. C'est vrai qu'on, donc c'était resté un titre, donc on en rit des fois avec mes copines, mais c'est en sortant de la presse écrite, j'ai mis du temps à poser ma voix ou je sais pas quoi. Mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'au début, je savais pas le faire. On entend tout dans la voix de quelqu'un. On entend s'il est fatigué, s'il est stressé, s'il est, je sais pas, on entend plein de choses et plein de choses même que je saurais même pas verbaliser. Mais c'est quand même un vecteur qui est énorme. Et c'est apprendre à parler plus calmement. C'est donc après travailler. J'ai pas travaillé chez moi, mais c'est vrai que ça s'apprend. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Au début, par exemple, pour les premières fois que j'ai dû dire une intro, j'étais très mauvaise. Ouais, et ça a duré quelques mois.
Et tu t'es beaucoup réécoutée pour progresser.
Ouais. Ouais. Beaucoup.
Mais toi, c'est marrant parce que quand on écoute ta voix, chaque fin de mot, c'est tu remontes,
bon
oui.
Ah ouais, bah écoute, j'ai trouvé ma façon.
Non, mais ça, c'est ta façon, mais c'est un peu travaillé ou c'était vraiment naturel, t'as toujours parlé comme ça. C'est un mix des deux un peu.
C'est un mix des deux parce que je pense que je parle pas exactement pareil dans la vie de tous les jours que si j'enregistre, tu vois. Ça me paraît normal. Enfin, je pense que tu prends n'importe qui, je sais pas. Bah toi, je sais pas.
Bah si, non, mais ouais, moi je prends ma voix de podcast aussi.
Mais voilà, mais tu prends Augustin Trappenard ou comme ça, genre comme ça. Ils ont une façon aussi, quand s'ils sont à l'antenne, s'il est à la télé, et si tu le croises dans la vie, il va, c'est la même personne, mais il parle pas exactement de la même façon. C'est normal.
Toi qui as fait de la radio d'ailleurs, il y a quand même un écart assez important, je trouve, entre la radio, le fait d'être en direct ou pas, mais le fait d'être en direct, d'avoir une audience qui t'écoute, etc., d'avoir des timings très chartés, c'est hyper stressant dans la radio par rapport au podcast.
Ouais, alors moi la majorité de ce que j'ai fait à Nova n'était pas en direct. Après j'ai fait quelques émissions en direct avec eux et pour eux, mais c'est très différent, mais c'est une adrénaline de fou, c'est génial, c'est assez génial. Après c'est ça, t'as des tableaux, enfin t'as des plateaux dans la tête, tu sais très bien, t'as 3 minutes, 6 minutes, des trucs comme ça, et donc ça va très très vite avec un invité. C'est un autre sport, quelque part. Peut-être que là, il faut être très efficace. Tu sais qu'il y a une musique qui arrive tout de suite derrière. Enfin bon, voilà. Moi, j'avais pas ça dans le genre parce qu'on montait ensuite et donc on refabriquait les plateaux nous-mêmes, quoi. Donc voilà. Mais moi, j'ai trouvé que c'était. Enfin, j'ai trouvé ça génial. Hein. Ouais.
Faudrait que j'en fasse, moi, plus.
C'est une autre façon. C'est une autre façon. J'aime les deux, mais je préfère celle du podcast là, mais j'aime aussi enfin c'est deux plaisirs super différents, voilà. Faut que t'essayes.
Faut que j'essaye. Très bien, je vais faire ça. On prend un autre mot.
Allez.
J'espère qu'ils vont être bien. Hein.
Que des mots de philo hyper hard. Futur.
Ouais, futur. Wow. Futur.
C'est hyper existentiel ton questionnaire.
Mais je pense que c'est lié à moi en fait.
C'est ça. Mais de toute façon, non, on pose des questions qui intéressent soi, non, enfin,
bien sûr. Ouais.
Comment tu trouves tes questions?
Bah, elles sont bien.
Comme ça, non, mais je veux dire.
Ah, comment je trouve mes questions?
Ah non, pas comme je...
Est-ce qu'elles sont bien?
Tu me dis, ouais, elles sont super.
Elles sont nulles à chier. comment je trouve mes questions? Bah, c'est ça, c'est que je m'intéresse, je regarde ce que fait la personne, etc. Pourquoi j'ai envie de l'interviewer? C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. C'est qu'est-ce qui m'intéresse dans cette personne? Qu'est-ce qui me touche? Et j'ai envie d'aller creuser, de comprendre comment elle a fait ce truc-là. Mais dans cette. J'écoutais Panayotis Pasco chez toi, là, sur le goût de M. Et c'est vrai qu'il disait, moi, j'interviewais des gens. Je crois que c'est dans ton podcast, ouais. J'ai interviewé des gens pour comprendre comment ils faisaient les choses. Oui. Et c'est vrai que moi, je suis vachement là-dedans.
Comme des masterclass, il disait. Exactement. Lui. C'est un truc où, ce qu'on disait au tout début, c'était ses études, quoi. C'était je veux devenir ça. Et puis on sent une grande détermination chez lui, hein, quand même.
C'est dingue ce qu'il fait.
Impressionnant. Ouais. Et du coup, qu'il a vraiment. Puis surtout à partir de quoi, 14 ans, enfin. Et qu'il a appris, quoi. Enfin, qu'il a
puis
été chercher.
Il se lance dans des trucs complètement différents. Tu fais un one-man show, un livre, journaliste, etc.
C'est fou, là. Il est plus de 100 000 exemplaires, là, à l'heure où on se parle. Et tu vois, c'est pas dit que ça augmente pas, enfin je pense que ça augmentera. Je crois que là, hier soir, c'était la grande librairie, il était, j'ai pas regardé encore, mais donc ça va encore élargir son audience, parce que je pense que pour l'instant, ce qui est hyper fort avec, ce qui est hyper intéressant avec lui, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté son livre, qui sont pas forcément des gens qui lisent beaucoup habituellement. Y en a aussi, hein, mais pour taper 100 000 comme ça, et je trouve ça super, parce qu'en fait justement il arrive à ouvrir complètement, et puis bon, son livre est très bien, mais c'est assez étonnant, je trouve, en fait. C'est pas passé par la recommandation des critiques, des machins, même si je pense qu'il a eu des bonnes critiques, mais c'est passé autrement. C'est passé par le digital, par la télé, par, enfin, même plus la télé, mais d'autres façons dont les choses marchent aujourd'hui.
Mais toi, y a pas un peu de ça aussi en toi ? De rencontrer des gens pour comprendre comment ils ont fait, etc. Parce que tu t'essayes à d'autres choses quand même. T'es pas que journaliste aujourd'hui.
Ouais, tout à fait. Puis moi, je crois que. Alors, ce qui m'intéresse vraiment dans tous les gens que je rencontre, quand on a des longues rencontres comme ça, c'est. Je crois que soit pour le goût, pour le genre, voilà. C'est comment. C'est leur position. C'est comment ils se sont. C'est le bricolage qu'ils ont opéré, quoi. C'est comment ils sont arrivés à être qui ils sont devenus. Mmh. Et j'en saisis quelque chose à chaque fois. Et ça, ça me passionne. Et ça me passionne toujours, quoi. C'est-à-dire, même des fois, j'y vais. Il y a des jours, j'y vais, je suis épuisée. Tu vois, enfin, ça m'arrive. Je me dis, j'ai plus d'énergie. Et il y a des gens qui vont me redonner une énergie, mais considérable, quoi. Il y en a qui en prennent aussi. Mais il y en a qui m'ont redonné d'une manière considérable parce que, je sais pas, ça m'intéresse toujours. Ça, c'est une curiosité qui se tarit pas, ça. Mmh. Et. Comment ils ont fait ? J'adore ça.
Ouais, ça c'est passionnant. Hein.
Ouais.
Qu'est-ce que tu veux représenter toi dans ton métier, dans ton monde ? Enfin, en tout cas, c'est quoi la vision que t'as pour toi ?
Je sais pas. Je me pose pas trop cette question. Qu'est-ce que je veux
représenter ? C'est marrant.
Qu'est-ce que je veux représenter ? Ben. Là, moi, j'ai l'impression que c'est un peu mon travail qui parle pour moi dans ces cas-là. Si tu veux. Enfin, moi, je sais pas.
Qu'est-ce que tu représentes, tu penses, pour les autres ?
Je sais pas. Je pense que. Je pense que j'ai ma façon de faire les choses et que c'est pour ça que ça peut plaire, en fait, ce que tu disais. C'est-à-dire que les gens reconnaissent un ton, reconnaissent une façon d'aller aborder quelqu'un et il va toujours y avoir une certaine intimité avec la personne. La personne va parler différemment. Donc, ça me plaît, si tu veux, de proposer alors, des contenus, comme on dit aujourd'hui, que moi je trouve de qualité et qui sont un peu différents, où on s'approche un peu de quelqu'un. Ça m'intéresse. Voilà. Après, ce que moi je veux représenter, je t'avoue que je me pose pas tellement la question comme ça. Enfin.
Non, parce que pour moi, tu représentes. Ouais, t'es vraiment quelqu'un qui a trouvé son ton, sa façon de faire. Tu t'es inspiré de gens.
Ouais.
Tu as des héros, des héroïnes ou des rôle modèles plutôt, comme on dit.
Dans quel domaine tu veux dire
Dans ton domaine, ou d'ailleurs dans d'autres domaines.
Ouais. Hein, alors moi, je l'ai beaucoup dit, mais c'est vrai. J'ai énormément écouté Laura Adler. J'adorais ça, je dis j'adorais parce qu'elle est plus à l'antenne là de France Inter, mais je crois qu'elle va continuer la télé, mais j'adorais ses entretiens, vraiment. C'est elle qui pose son tempo à chaque fois. Elle avait une capacité de, je dis au passé pareil parce que c'était quand elle était à l'antenne, hein, elle est toujours là, mais une capacité de rebond que je trouve très forte parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très agile intellectuellement, très structuré, qui est capable des fois de faire des rebonds. Souvent je l'écoutais ici là justement, tu vois là, pendant que le soir, alors pendant que je prépare à manger, et je l'écoute et des fois je pousse des cris parce que
c'est trop fort.
Ouais. Parfois j'étais là waouh, cette relance là, ou parfois cette façon aussi. Alors elle, parfois elle pouvait rentrer vraiment fort dans quelqu'un, c'est-à-dire poser une question. Je me dis, waouh, cette question-là, il faut. Parce qu'il y a des questions qui ont l'air.
Anodine, ouais.
Ouais, et en fait, qui sont très. Enfin, quand on la reçoit, la question, quand il faut y répondre, eh ben, c'est très impliquant. Enfin, je me dis, waouh, là, elle va vraiment chercher la personne. Il faut déjà être dans un. Enfin, il faut oser le faire, quoi. Voilà. Ou être dans un niveau de confiance fort, ou. Enfin, il faut y aller. J'adorais son truc, quoi, qui était un peu free jazz, d'une certaine façon, un peu en impro. Enfin, j'ai lu aussi comment elle travaillait. Je l'ai interviewée deux fois aussi, d'ailleurs, dans mes podcasts. Elle a été mon invitée et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime sa culture, j'aime ce qu'elle représente, j'aime les bouquins qu'elle a fait sur Duras, voilà. Donc elle, je l'ai beaucoup écoutée. Et puis c'était des entretiens longs. J'aimais bien ça, moi. C'était après les In Rock et tout. Je me suis vraiment demandé aussi quand je suis partie, qu'est-ce que j'aime vraiment faire ? Qu'est-ce qui me plaît dans mon métier ? Et c'était, j'aime les entretiens hyper longs. J'aime avoir de l'intimité avec les gens. J'aime avoir la sensation qu'ils me racontent un peu autre chose et j'aime sortir des formats finalement. Que je lis tout le temps dans la presse, quoi. Et donc, du coup, c'est un peu comme ça, c'est inventé. Ça a été ça, finalement. Tu vois, ce que j'ai fait, ça a été le résultat de cette réflexion-là.
Bien sûr.
Mais donc, voilà, ouais, je dirais Laura Adler, et puis, ce serait la principale. Dans les rôles modèles d'intervieweurs ou d'intervieweuses, je trouve Augustin Trapner très bon aussi, hein. J'écoute ce qu'il fait. Voilà, c'est peut-être les
sur
personnes.
Sur Boomerang, c'était fou, hein.
Ouais. Et puis, là, je trouve aussi sur La Grande Librairie, c'est super. Voilà, je trouve que c'est des gens très cultivés, mais qui, à la fois, sont compréhensibles. Et puis ils ont une qualité de l'humain aussi, c'est-à-dire dans l'approche de l'invité. Ça m'intéresse beaucoup, en fait. C'est-à-dire qu'ils essayent vraiment de de percevoir la personne qu'ils ont en face d'eux.
C'est quoi une bonne relance? C'est quoi, à quel moment quand tu dis Laura Adler, elle c'est génial comme relance?
Parfois, bah, c'est parce que parfois il y a plusieurs fonctions de la relance. Enfin, effectivement, c'est relancer. C'est qu'on va pouvoir continuer à parler d'une façon où c'est que t'as rebondi sur quelque chose que la personne elle a dit, mais qu'elle avait pas forcément entendu, et que tu vas ouvrir quelque chose en elle. Et voilà, donc ça c'est assez chouette. Et puis elle, c'est parfois dans des, je sais pas comment dire. Là, c'est plus comment elle va arriver à faire avancer le truc en allant très très vite, en conceptualisant et en faisant avancer. Et ça, il faut, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est juste que je vois que son cerveau il va très vite. Voilà, c'est ça.
Comment tu progresses, toi?
J'allais te dire en essayant de me connaître mieux moi-même. C'est un peu con, hein, comme réponse, mais un peu ça, je crois. Et puis en lisant des choses, et puis je sais pas comment je progresse. Est-ce que je progresse déjà? Tu vois, c'est comme tu dis, à l'expérience, tout ça, c'est particulier, la notion de progrès. Aller vers l'avant, ouais, ben écoute, ouais, je crois en me connaissant, en essayant de me connaître mieux. Parce que, je sais pas, toi, dans les interviews, moi, je vois que très souvent, ce que je vais aller demander aux autres, alors évidemment, il y a leur actualité, leur spécificité, leur singularité, mais c'est aussi des questions qui m'intéressent moi profondément, qui sont mes questions, que je me pose à moi-même, si je ne sais pas forcément encore. Parce que souvent, je me dis, mais en ce moment, je vais vachement de là, et puis je me rends compte que c'est une question que je suis en train de me poser, tu vois. Enfin, donc, voilà, je progresse aussi en rencontrant des gens. On est nourri par tous ces gens qu'on rencontre, par toutes ces problématiques auxquelles on est confronté, par rapport à tout ce qu'on découvre.
Tu penses que tu pourrais être meilleur?
Comment?
Tu pourrais être meilleur?
Bon, j'espère qu'on s'améliore, voilà, quoi. Mais c'est pas une obsession non plus.
Ouais.
Non.
Non, parce que tu vois, moi, c'est une question très personnelle aussi, mais parfois je me trouve vraiment nul. Et,
ah bon, mais pourquoi?
Mais je sais pas, parce que je trouve que je suis pas dans le truc, etc. Ça fonctionne pas bien. C'est pas.
Mais ça,
assez...
c'est des jours aussi, non? Oui. Il y a des jours où t'es moins.
Il y a des
jours
où je suis très bon, mais des jours où je suis très nul.
Et ça, c'est aussi un truc de ce que je te disais, c'est tu vas tout le temps. Enfin, le but, c'est d'être suffisamment bon à chaque fois, quoi. C'est comme. Mais parce qu'il y a des jours où on est moins en forme. C'est comme un sportif, quoi.
C'est
biologique,
ouais.
Bah, il y a des jours où t'es crevé, il y a des jours où je sais pas, c'est mal passé, il y a des jours où je sais pas.
Gris, ouais.
Et t'arrives et t'es moins disponible. Donc c'est aussi une capacité, une disponibilité, une fraîcheur. Il y a des jours où tu vas être heureux, je sais pas, t'es joyeux, ça va se communiquer aussi tout ça avec l'autre, quoi. Donc,
t'as des rituels d'ailleurs quand tu vas en interview?
Ah non, pas du tout.
Ouais.
Non. Le seul peut-être, c'est d'essayer de rien avant consulter qui pourrait par exemple affecter énormément mon humeur, je sais pas.
Des emails ou des trucs comme ça.
Exactement, exactement. Ouais, parce que ça, j'avais déjà remarqué à la radio, ça m'est arrivé de tu vois, prendre un email avec un truc, merde, ça c'est hyper chiant. Et tout d'un coup, de plus arriver à être. Donc, le seul rituel, c'est peut-être se mettre un tout petit peu dans une bulle, mais c'est exagéré, pour garder sa disponibilité, en fait, quoi. Voilà, donc j'essaye de.
Et t'interviews le matin, l'après-midi, t'as pas de préférence?
Je fais les deux. Ouais. En fait, ça dépend des gens, hein, tu sais. Mais je préfère le matin, je crois. Ouais. Ou alors le soir. Ça m'est arrivé quelques fois. Mais chez Laura Adler, justement, c'était 20h, 21h, il faisait nuit. J'aime bien ça aussi. Ça arrive pas souvent, mais ça, j'aime beaucoup. Et puis, qu'il y ait peu de lumière. J'aime beaucoup aussi quand ça se passe. Mais sinon, le matin, on est bien, je trouve. Genre 11h, c'est super.
11h, c'est bien.
11h, c'est bien, on est bien réveillé, on est, je sais pas, 11h, c'est cool.
Ça te réveille, c'est peut-être un peu tôt, ouais.
Ça va, c'est bien.
Ça va. Et comment tu prépares tes interviews? Tu lis tout, tu manges tout, tu...
Je mange beaucoup.
Ouais.
Je mange beaucoup, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est comme au tennis, quoi. Il faut que j'arrive, pour pouvoir bien jouer la partie, il faut que je connaisse, enfin c'est pas comme au tennis d'ailleurs, mais en tout cas que ça va être un échange comme ça, et que si je suis très préparé, je vais pouvoir être beaucoup plus disponible pour accueillir l'imprévu. Tu vois, en fait, voilà quoi. Et donc, je mange beaucoup d'interviews, ouais, avant, en fait, quoi.
Tu lis principalement des interviews. Enfin, après, ça dépend du métier des gens, mais quand c'est,
bah, là,
quand c'est quelqu'un qui a écrit 18 bouquins, il faut se les bouffer.
Oui, bah là, tu vois, là, je dois aller voir Eric Reinhardt la semaine prochaine. Ben, par exemple, je lis 2-3 de ses bouquins. Et puis, il y a une personne avec qui je travaille aussi, Diane Lizarelli, qui me fait des fiches, qui synthétise, mais c'est 20-30 pages d'interview qu'on a un peu classé thématiquement, elle et moi, en fait. On a des entrées, en fait. Voilà, on se connaît bien, mais voilà, on a trouvé un système de fonctionnement. Et ça m'aide énormément. Ça me fait gagner du temps. Mais après, moi, je travaille encore un ou deux jours. facilement là-dessus, plus ce que je lis ou si je veux voir les films, tu vois. Enfin, quand c'est quelqu'un qui a fait des films, je regarde le dernier film, mais souvent j'en regarde plus quand même aussi, quoi. Les acteurs, c'est pareil, j'essaye de. Je peux pas me taper toute la filmo.
Ouais, après,
c'est
des gens à
force.
Ben,
après, t'as une, à force, t'as les années aussi, ce qui fait que t'as vu déjà beaucoup de choses. Puis après, j'essaye de. Mais ça, ça me plaît vachement. J'adore, moi, me dire. Ouais, c'est mes études qui continuent, tu vois. Enfin, j'aime bien ce truc de me dire, je dois aller regarder ça, je dois aller. Voilà.
Comment t'arrives à les convaincre, ces gens?
Oh ben, généralement ils sont d'accord. Hein. Enfin, j'ai assez peu de pourparlers. Ou alors, après, écoute, il y a le format qui fonctionne. Ils le connaissent, donc ils écoutent. Ça leur plaît, ça leur plaît pas.
C'est toi, puis, c'est le monde. C'est, c'est
évidemment que d'être aussi adossé au monde, c'est énorme comme atout. Évidemment, que c'est plus facile, je pense. Quoique toi, tu as des invités qui sont très très bons. Hein, donc, mais je me dis que c'est plus facile que si tu es en freelance. Bon, en tout cas, évidemment.
Moi, je bataille, je t'avoue.
Tu batailles.
Ouais.
Mais le Monde, c'est quand même une référence très grande dans la presse française. Donc forcément que ça joue, que les bonnes audiences jouent, que bon, tout ça. Et puis voilà. Et puis après, c'est aussi. Tu vois, là, c'est comme tu disais, ça fait la 5e saison. Et puis moi, ça fait longtemps que je suis journaliste. Donc tu connais les attachés de presse. Donc ils connaissent ton travail. Donc eux aussi, ils ont. Bah, c'est aussi des bonnes relations dans le sens. Je pense qu'ils savent. Ils ont confiance dans ton travail, ils savent que tu vas pas, faire un gros coup de pute à l'invité, que machin. Bon. Donc ils t'envoient des gens aussi, ils leur disent aussi, même il y a eu des gros noms que j'ai eu parce que l'attaché de presse lui a dit il faut vraiment que tu le fasses, ça va être bien. Voilà. Donc ça se passe comme ça, mais après on n'insiste pas beaucoup. Il y a des gens, on renvoie parce qu'il y a des gens, on a vraiment envie d'avoir, on essaye, mais. Généralement, ils acceptent, quoi. Enfin voilà, et on leur explique comment ça va se passer. Ça peut être souvent. Moi, je peux appeler pour dire voilà, ça va prendre tant de temps. Enfin, ça, mon assistante aussi, elle leur dit, mais ça va. Oui, on vient chez vous, mais voilà comment ça va se passer.
Ça les rassure. Ouais.
Ben, ça peut aider à ce qu'ils acceptent ou qu'ils refusent d'ailleurs. Mais au moins comme ça, c'est.
Tu prends ton téléphone quand même. Enfin, c'est important de parler
aux
gens.
S'il y a besoin, en vrai.
Ça, c'est souvent par email quand même.
Oui, ou les attachés de presse par téléphone, mais voilà.
Comment tout à l'heure tu disais que tu n'étais pas forceur, forceuse dans ta façon d'interviewer les gens, mais à un moment donné, parfois il faut attendrir un peu la viande, il faut les ouvrir. comment tu
t'appelles ça comme ça?
Ouais.
T'attendris la viande.
Je sais pas, je trouve que c'était une image qui était intéressante.
D'accord. C'est non, drôle.
C'est horrible. Comment est-ce qu'on ouvre les gens? Comment est-ce que tu as des techniques qui te permettent de lever les défenses des gens?
Je les observe et je les écoute. Il y a des gens où tu sens par exemple qu'ils ont envie que tu les regardes. Il y a des gens où tu sens qu'ils ont envie que tu les regardes pas. Qu'ils ont besoin que tu les regardes pas. Pour pouvoir être à l'aise, pour parler. Je fais toujours attention aussi à la distance qu'il y a entre nous. Par exemple, là, tu vois, on est
à table,
chez moi, à table. Et bon, ben voilà, c'est une distance de table à dîner classique. C'est bien. Si on était plus près, peut-être que je me sentirais un petit peu pas très à l'aise. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est un truc animal. Enfin, c'est,
bien sûr.
Et puis qui varie selon les sociétés,
confort,
hein, d'ailleurs. Mais
de
zone de confort. Donc, que la personne soit bien. Et puis, il y a des fois où je sens que la personne est hyper en défense, quoi. Hyper en défense. Alors j'attends, j'essaye d'être tapis, quoi. D'être calme. Et puis, généralement, au bout d'un moment, je sens que ça se détend, en fait. Voilà. Mais peut-être que ça se détendra pas, hein. Y a pas, tu vois, j'ai pas de technique miracle, mais c'est un truc de, en tout cas, de, d'observation et d'écoute.
Tu te synchronises avec les gens?
Tu veux dire physiquement?
Ouais.
Je sais pas, mais c'est possible parce que je sais que c'est des phénomènes qui se produisent.
Tu vois, par exemple, t'as une position comme ça.
Là, là, tu l'as, là,
en ce moment. Et je la synchronise. Enfin, en tout cas, je mimique. Et moi, je sais que ça m'arrive de. Quand les gens parlent vite, je parle vite. Ou quand les gens parlent lentement ou doucement, je parle doucement. Mais ça se fait automatiquement et je sais pas si c'est conscient ou pas. Enfin, toi, en tout cas, c'est pas conscient. En tout cas, c'est pas conscient.
Et après, on instaure un rythme qui est assez lent aussi dans ce podcast-là. Je te dis souvent, ça peut très bien. On peut commencer et puis je peux ne pas regarder la personne pendant longtemps pour justement qu'elle rentre dans son truc. Et puis, en fait, comme elle commence à. Par parler de son enfance et par je leur demande des images aussi, beaucoup parce que je leur demande de décrire par exemple la maison dans laquelle ils ont grandi. Et ben ça. Forcément, si on le faisait là maintenant que je te demandais ça par exemple, je suis sûr que ça t'emmène ailleurs.
Bien
c'est-à-dire
sûr.
Que tout d'un coup, tu vois que la personne elle commence. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, juste peut-être qu'on essaye de mettre un temps un peu différent. Ouais.
C'est vrai que cette technique de dire à quoi ressemblait la maison.
Les images visuelles, j'aime beaucoup ça moi en
tout
radio.
Tout de suite, ça les envoie dans quelque chose d'autre.
Et je trouve que l'auditeur aussi. C'est-à-dire que moi j'aime bien qu'on me décrive les choses. Je trouve que l'audio c'est un. c'est un médium qui est hyper sensuel en fait. Déjà parce que voilà,
c'est dans l'oreille, ouais.
Ouais. Mais aussi, c'est-à-dire que je trouve que les mots qu'on dit, si je te dis, je sais pas moi, doré, sucré, du sable, la mer, enfin, c'est des mots qui disent des choses. Et ben ils ont un effet physique sur nous, c'est-à-dire que, si, en tout cas, les images visuelles marchent énormément, je trouve, en audio. Ouais. Voilà. Donc, quand quelqu'un commence à décrire des choses, eh ben, c'est autre chose que juste du discours, et c'est un plaisir dans l'écoute aussi.
Ouais. Contextualiser. Ouais. Vous êtes une équipe, une grosse équipe pour ce podcast en particulier et dans
ce podcast
genre
là,
idéal.
Alors ben dans genre idéal, ça varie selon les projets en fait. On monte des équipes par projet. Bon, parce que c'est bien, déjà on peut avoir des gens qualifiés selon les projets. Et puis ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi je suis à une taille où j'ai pas 10 employés. Donc moi ça dépend un peu des projets quoi. Enfin voilà, c'est le.
T'as pas d'employés, mais c'est des freelances.
L'année dernière j'avais une employée en fixe là qui est repartie faire ses études, mais avec qui je collabore encore. Et puis là je suis en train de réfléchir en ce moment justement, mais sinon j'ai des freelances mais qui sont des collaborateurs quand même réguliers quoi, enfin dans le sens il y a des réals avec qui je travaille, il y a des journalistes avec qui je travaille, voilà quoi. Et sur le M on est 4 personnes à travailler, mais pas, enfin il y a 2 équipes si tu veux en fait, parce que comme c'est des intermittents les gens sont pas pour qu'ils soient forcément qu'il y en ait un libre toujours quoi. Voilà.
Parce que quand tu vas chez les gens, t'es seul ou t'as quelqu'un?
Non,
qui t'accompagne?
J'ai un ingé son avec
d'accord.
moi
qui prend le son à la perche ou au micro?
Avec des micros, des pieds, des très bons micros, et puis on a aussi un micro stéréo pour tout ce qui est séquence dans l'appartement.
Ah oui.
Qui donne une sensation spatiale plus importante et qui te donne plus l'impression d'y être quoi.
D'y être, ouais.
Donc voilà, ça c'était un principe de réal qui avait été trouvé d'ailleurs par Sullivan Clabot, avec qui on avait créé ce format au départ, et voilà quoi, et donc c'est comme une mini perche si tu veux.
Trop bien, on tire un autre mot,
allez. C'est toi qui décides hein. Alors, on tire un autre mot.
Les quoi ?
Les Inrocks.
Les Inrocks. Ouais, les Inrocks quand même.
Les Inrocks.
Là, j'ai mis 17 ans, mais c'est 15 ans.
Ouais, je crois que c'est 15 ans. Ouais.
15 ans, c'est quand même un morceau de vie qui est colossal.
Énorme. Ouais.
Et on n'en sort pas. Enfin, on en sort. Enfin, t'es arrivé, t'étais un bébé en fait, non ?
Oui, j'avais déjà un tout petit peu bossé avant, comme je te disais. Mais j'avais 27, 28 quand je suis arrivé là-bas. Et puis, mais oui, j'ai appris énormément de choses là-bas. Énormément, énormément. Et puis je suis rentré, voilà.
C'est une culture, c'est une famille,
Ça a été une culture. Ouais. Ça a été une culture. Oui, il y a des gens que je vois encore, avec qui je continue de bosser. Donc, c'est une exigence aussi. C'est-à-dire, quand même, la majorité des gens qui étaient là-bas que j'ai rencontrés étaient très bons, ont une exigence dans le travail et un goût du travail bien fait, des œuvres qui sont un peu qui challengeantes. Enfin, on se retrouve là-dessus. Tu vois, il y a un truc de aimer les mêmes trucs. Moi, il y a encore des anciennes collègues et amis avec qui je suis en contact. Et c'est, je sais pas, quand je vois un film et que j'en parle avec elle pour, tu vois, enfin, il y a un langage commun.
Ouais. Ouais. Et il y a une façon de faire.
Je trouve. Alors après, elle varie un peu en fonction des gens, mais il y a même une. Bah, c'est quand même.
Qu'est-ce qui fait que t'es marqué les Inrocks
aujourd'hui?
Ouais. Ou enfin que quelqu'un ait marqué les Inrocks, pas forcément toi, mais.
Pendant longtemps, ça a été un goût quand même. Pendant longtemps, ça a été les Smiths et compagnie en fait. Hein, et ça a été une certaine exigence aussi. Ça a été un goût de l'auteur, hein, quand même. Je crois la politique des auteurs, tout ça, c'était très dans cette tradition-là quand même. Ça a été l'auteur avant tout, l'œuvre indépendante aussi beaucoup. Pendant un moment, même si après, évidemment, il y a eu plein d'auteurs qui ont commencé à faire des blockbusters et tout ça, et des trucs super intéressants. Bon, voilà. Donc, et puis moi, je suis pas du tout sectaire là-dessus. Mais ça a été quand même ça. Et ça a été rock aussi, au départ, vraiment. Donc, il y a eu tout ça, mais je crois qu'il y a quand même une recherche. Je mettrais un mot d'exigence quand même, quoi, dans tout ce qui est défendu dans le journal, dans tout ce qui était défendu dans le journal, dans toutes les sections, en fait, d'aller chercher les personnes qu'on trouvait les plus intéressantes dans ce champ-là, à ce moment-là. Et il y avait ce truc de tête chercheuse, c'était assez formidable, c'était vraiment une université de ouf, quoi, tu vois, parce que, en fait, ça nous a beaucoup cultivés. Beaucoup d'entendre, enfin tu sais, c'était un bain dans lequel on était. Alors il y avait ce sur quoi tu travaillais toi-même déjà, bon ben chaque semaine t'ingurgites quand même beaucoup, mais après il y avait aussi la conférence de rédac, entendre les noms sur lesquels les autres travaillaient, tout ça. Donc en fait tout ça a fait que ça, je pense que ça, 10-15 ans là-bas, quelqu'un qui a passé 10-15 ans là-bas, il en ressort bien plus cultivé que quand il est rentré, c'est sûr.
Ça te manque pas?
Non, ça me manque pas, ça m'a fait du bien d'arrêter même, parce que c'était Moi, j'étais en hebdo. C'est le rythme le plus fatigant dans la presse, en fait. Parce que quand t'es en quotidien, bon, bah, c'est aussi speed. Mais en fait, t'as les plus grosses équipes. Quand t'es en mensuel, c'est plus cool. Vraiment plus cool. Okay. Nous, c'est chaque semaine, on faisait 120 pages, d'accord ? Moi, j'avais 20 pages d'actu dont je m'occupais au début du journal. Et nous, on n'avait jamais, aux Inrock, enfin, pas dire jamais, mais quasiment jamais d'avance. C'est-à-dire qu'on repartait à blanc chaque semaine, tu vois. Donc en fait, c'est super speed. Et moi, j'avais deux chemins de fer. Il y avait une partie qui bouclait le jeudi, une partie qui bouclait le lundi. Donc deux bouclages dans la semaine, fatigant les bouclages. Et en fait, j'avais ça sans cesse dans la tête, tu vois. Enfin, avec toutes ces pages, ces machins, les trous, les machins. Oui, voilà. Et en fait, ça m'a fait du bien que ça s'arrête aussi. Ce rythme de pouvoir accéder, avec les podcasts notamment et tout ça, un rythme qui est de fabrication. Alors même si on va vite là, mais je sais pas comment dire... des objets un peu plus longs. Mmh. Ça m'intéresse de plus en plus de... Tu vois, l'article de presse, c'est un truc court, c'était... Mmh. Alors, c'est génial aussi, je pense, par exemple, en comparant... Si on compare, par exemple, avec un écrivain qui va... Ou un cinéaste qui va mettre 2, 3 ans, 4 ans à voir son projet sortir. Mmh. Nous, on a ce truc de... Ça sort.
Ouais. Mmh.
Et donc, il y a aussi de la valorisation à chaque fois que ça sort, tu vois. Enfin, t'as un truc de... Ah, ben, ça y est, j'ai réussi, j'ai produit.
Ouais.
Et donc, ah, ben, ça te renarcissise, entre guillemets. Donc, c'est très agréable aussi, voilà. Mais... Il y a plus ça va et plus je suis attiré par les objets avec un temps un peu plus long, voilà. Donc c'est un rythme de vie aussi, je pense.
Ouais. Pourquoi c'est fatigant les bouclages? Parce que c'est beaucoup de discussions, c'est ça.
Mais c'est speed, un bouclage. C'est speed.
Ouais.
T'as 30 pages qui partent à 18h ou 20 pages. Et en fait, ben, je sais pas, il est 17h30 et il y a une page qui est pas finie encore. Donc en fait, tu vois, parce que la photo ça va pas, ou parce que le titre ça va pas, ou enfin, ça va pas, je veux dire, il faut faire un changement, ou il y a quelque chose qui est pas arrivé en temps et en heure, ou, tu vois. Donc c'est speed, un bouclage. Ouais.
Et ce choix de faire de l'hebdo en podcast aussi, c'est quand même fatigant, non? Ça demande pas mal de taf.
Ouais, ça demande beaucoup de c'est beaucoup de travail. Au départ, on était en bimensuel, et puis ensuite, le M a décidé de le passer en hebdo pour être en plus grande cohérence avec le magazine. Et c'est vrai que pour nous, bah, c'est une grosse prod. Enfin, dans le sens où il faut qu'on s'y prenne bien à l'avance, avoir un peu de stock, parce que sinon, c'est pas confortable du tout.
Ouais. T'as beaucoup de stock?
J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai, en fait.
4-5 épisodes d'avance.
Oui, voilà, exactement. Ouais. C'est-à-dire que on commence à diffuser là, cette année, on a commencé le 13 octobre. Et donc, moi, mon but, c'est de, à ce moment-là, de se dire, j'en ai 4-5 enregistrés. Ouais. Ça veut pas dire produits. Mais voilà. Parce que j'aime pas sinon ça te met dans une urgence. Sinon, là, je travaille beaucoup mieux en ayant du stock. Et du coup, tu vois, si jamais tu rates un entretien, par exemple, ou si une personne te plante parce qu'elle est malade ou X raison, t'es pas non plus pris à la gorge.
Ça t'arrive de pas publier un entretien qui était moins bon?
Non, là, ça m'est pas arrivé, non.
Mais dans l'histoire du podcast?
Non, ça m'est pas arrivé. Parce qu'après, avec le podcast aussi, on peut ajuster la durée.
Ouais, ouais. Donc, c'est vrai que tu coupes tous les moments chiants, etc.
Tu peux couper beaucoup, et puis... Ouais.
Mais d'ailleurs, ça te gêne pas de couper autant? Toi qui aimes le format long, tu disais que t'aimes ce côté...
Non, parce que moi, j'aime que ce soit rythmé aussi. J'aime... Non, moi, je trouve ça bien, mais je coupe pas énormément non plus, hein, puisqu'on arrive à 45 minutes à peu près sur le M, et je dois enregistrer entre 1h10 et 1h30.
Et combien de temps à l'avance tu prépares? C'est un mois de travail, quand tu disais tout à l'heure, la préparation.
Ah non, c'est pas un mois. Non. Je disais, c'est...
Non, mais tu compiles beaucoup d'informations, etc. Il faut les ingurgiter, il faut lire les films. Enfin, parce que si jamais t'as une opportunité de dire, bah, demain, tu peux interviewer telle personne.
Non, il me faut...
48
faut...
heures
ah, non, plus.
Une semaine.
Ouais. Je dirais une semaine.
Ouais, semaine, c'est minimum.
Mais après, bon, si vraiment c'est un truc exceptionnel, on va vraiment s'arracher. Mais 48 heures, alors ça veut dire que on n'a pas le temps de me faire une synthèse et il va falloir que je le fasse moi-même comme ça. Mais c'est trop. Non, je dirais moi, je
c'est demande. C'est un peu stressant.
Je demande au moins 5 jours, je dirais.
Ouais.
Ah ouais.
Parce que moi, tu vois, là, j'ai Paul Smith qui a accepté. Je suis hyper content.
Génial.
Je vais à Londres
en anglais.
En anglais, ouais. Ça va être rigolo. Et tu vois, j'ai su. Après, ça fait longtemps que j'ai envie de l'interview. Donc je connais son histoire, sa vie, etc. Je me suis déjà pas mal rencardé, mais tu vois, j'ai su ça hier et je dois l'interviewer lundi ou mardi. Ça te laisse un peu de temps, mais
tu vas travailler ce week-end, quoi.
Je vais travailler un peu ce week-end, quoi.
Ouais. Ça c'est le problème aussi, c'est-à-dire que ça fait un seul problème. C'est un truc dans la vie d'indépendant, quoi. C'est-à-dire parce que moi maintenant j'essaye de pas travailler le week-end, vraiment. J'essaye de prendre des vacances, vraiment, de les poser, tu vois, parce que sinon on
passe tout le temps,
voilà. Ça peut ne jamais s'arrêter, en fait, parce que, et en fait, ça, c'est pas bon pour tout ce dont t'as parlé avant, le bonheur, tout
oui,
ça,
c'est
quoi.
Vrai.
Ben oui, je trouve, quoi. L'équilibre, la vie amicale, la vie amoureuse, en fait, tout ce qui fait qu'on est bien dans sa vie.
Ça ressemble à quoi, d'ailleurs, tes semaines?
Mes semaines?
Est-ce que tu l'as systématisé d'une certaine manière où tu te dis bon bah le lundi je travaille sur le podcast, le mercredi voilà, je vais me nourrir de temps à temps, je vais faire du sport ou le week-end je fais rien, j'ai des vacances, etc.
Alors ça j'essaye le week-end rien, sauf extrême urgence, mais ça arrive, hein. Extrême urgence, ça arrive quand même. Mais
est-ce que tu pousses jusqu'à digital detox, je regarde pas mon téléphone, etc.
Non, alors ça, c'est... mais je l'ai fait parfois, c'est vachement... je me sens vachement mieux quand je le fais.
Ouais, c'est fou. Hein. Mais j'ai fait ça ce week-end, c'est incroyable.
Ah oui, tout le week-end?
Enfin, non, juste le dimanche.
Et t'as pas regardé ton portable?
J'ai pas regardé mon portable. Non, j'étais avec ma femme, mon fils, et j'ai pas regardé. Bah, elle avait son téléphone. Tu vois, il y a un côté où t'es pas bien quand même quand t'as pas de téléphone, hein, parce que c'est stressant.
Bah, t'es... Exactement.
Il te manque quelque chose.
C'est comme une insécurité maintenant qu'on ressent, alors que ça a créé ce besoin-là. Enfin, ça...
C'est fou.
Ouais.
Mais quand même, quand t'arrives le dimanche soir ou même tu commences ta semaine, t'as l'impression d'avoir, je sais pas, d'être beaucoup mieux et d'être. C'est beaucoup plus clair, t'es plus
beaucoup
en forme.
Beaucoup plus clair. Et de même que si je passe un week-end entier, alors, moi, bonus, comme tu dis, si j'arrive, je regarde pas mon téléphone, ça sert encore mieux. Mais si tu passes un week-end à pas travailler du tout, à faire des trucs, voir des amis, tout ça, machin, je trouve que t'attaques la semaine, enfin, ça n'a rien à voir, en fait. Donc finalement, moi, je trouvais ça contre-productif de travailler le week-end maintenant. Ouais. Donc voilà. Et puis ma semaine, elle va s'organiser en fonction des enregistrements que j'ai qui sont aller assez à l'avance, donc en fonction si j'enregistre mardi, jeudi, lundi je travaille complètement sur la prépa, tu vois, ça va bouger un peu, et puis il y a les autres projets sur lesquels je travaille aussi, et donc du coup y a des jours où c'est calé, que j'ai montage, des recherches de tel truc, enfin voilà, donc j'essaye le plus que je peux prévoir en fait pour le mettre dans mon agenda, parce que le problème c'est quand tu mets pas les trucs dans ton agenda et après tout d'un coup tu te retrouves avec une tonne de trucs à faire et t'avais oublié que ça ne rentre pas en fait quoi, donc essayer de plus en plus que ça m'arrive de moins en moins que ça rentre pas, tu vois, enfin, ou de dire ben non là c'est pas possible, ce délai on peut pas parce que là je peux pas moi, voilà, juste être réaliste quoi, voilà, mais mes semaines elles sont pas hyper systématiques, après j'essaye de caler du sport aussi, faire des moments qui sont voilà, et d'essayer de pas les bouger, de me dire tu ne bouges pas ça, c'est-à-dire que si on te demande, mais parfois je le fais, mais si on me dit une interview tel jour, je dis non je peux pas, j'essaye de tenir ça, c'est
t'en
difficile.
Fais combien par semaine? Des interviews ?
J'essaye de pas en faire beaucoup parce que l'idéal c'est d'en faire une par semaine. Parfois j'en fais deux par semaine, mais c'est fatigant. C'est le plus que je peux faire quoi, vraiment dans le monde, hein, je veux dire pour le monde. Et voilà, c'est mieux si j'arrive à espacer parce que j'ai plus de disponibilité, j'ai plus de fraîcheur. Enfin c'est aussi ça quoi.
Comment tu choisis tes projets ?
Mes invités, tu veux dire, ou mes projets ?
Non, tes projets.
Mes projets professionnels.
Qu'est-ce que tu acceptes et que tu refuses ?
Il faut que ça m'intéresse. Généralement, les projets sur lesquels je bosse, ils sont quand même très en accord avec mes centres d'intérêt. Il y a des fois qu'on me demande de l'interview dans des champs qui vont être des cinéastes, des choses comme ça. Donc, enfin, il faut que ça me plaise, quoi. Il faut que ça me plaise. Faut que ce soit assez qualitatif, quand même, aussi. Il faut que ça soit créativement intéressant. Et puis, il faut que la relation soit bonne avec le client, quoi. Que ce soit, que l'échange soit bon, voilà.
Qu'est-ce que tu refuserais vraiment ? C'est un truc...
Un truc qui serait trop loin de moi, ou pour lequel je penserais ne pas être très bonne, ou il y aurait d'autres gens qui seraient mieux que nous pour le faire, tu vois, en fait. Nous, on est quand même dans un champ qui est culture, hein, toujours. Beaucoup d'entretiens, mais pas que, parce qu'on fait aussi plein de podcasts qui sont pas d'entretiens. Et puis, sur lequel on a une valeur ajoutée, c'est ça, en fait, quoi. Après, ce serait du podcast hyper low cost, tu vois, pour des trucs... Je sais pas, tu me demanderais un domaine dans lequel je suis pas du tout capé. Mais après, je pourrais trouver quelqu'un pour le faire, mais un truc super low cost, ça m'intéresserait pas.
Ouais, il faut que c'est un objet qui ait de la gueule quand même.
Ouais, ça me plaît bien, qu'on puisse. Qu'il y ait un peu d'ambition à tous les niveaux.
Ouais. Ok. Continue.
Tu veux que je tire un mot ?
Ouais.
Ah oui, tu fais tous tes entretiens avec des mots maintenant.
Ouais, pas tous, mais.
D'accord.
C'est quoi ?
Inclusivité, diversité.
Ah ouais. Ça t'évoque ça.
Bah, ça c'est super important hein. Dans le monde dans lequel on vit, évidemment.
Tu fais particulièrement attention à ça.
Donc. J'essaye. On n'est pas parfait, hein. On a toujours on peut toujours venir te dire que c'est pas assez, et c'est vrai. Si tu regardes, par exemple, même les invités, oui, je pense que. Alors, je fais attention à ce qu'il y ait une parité. On fait attention. Mais il y a une majorité de personnes blanches, par exemple, qui sont interviewées, bien sûr. Alors, je fais attention. J'essaye d'en trouver aussi, et il y en a. Mais c'est vrai que.
Mais ça, c'est un biais de ouf hein, qu'on a.
C'est un biais de ouf.
C'est terrible, je trouve. Enfin, moi, dans mon podcast, tu vois, j'essaie d'avoir, comme tu dis, cette diversité, cette
inclusivité,
parité,
tout ça,
etc. Ouais. Mais c'est extrêmement difficile parce que forcément, je suis un homme blanc. Je vais être, je vais être attiré forcément par où mes rôles modèles sont des hommes blancs, tu vois. Et j'essaye d'aller voir ailleurs, etc., à m'ouvrir. Mais t'as quand même ce biais qui revient systématiquement. Et quand tu regardes mon line-up, il est trop homme de 50 ans blanc. Alors pas que j'ai 50 ans, mais ça me dérange vraiment. Et puis ça dérange les gens, je sens.
Ah oui, tu reçois des commentaires
non,
là-dessus.
Non, mais j'ai de temps en temps des messages. Ça m'est arrivé en 6 ans, peut-être 2 fois ou 3 fois, des gens qui disent mais il y a que des blancs dans ton truc, ou il y a que des hommes. Ou y a... Le monde de la mode, il y a quand même vachement de femmes, donc on a cette chance-là.
Oui. Oui, toi, tu as vu beaucoup de gens du monde de la mode.
Exactement. Donc il y a beaucoup de femmes, mais néanmoins, tu vois, il y a pas beaucoup de noirs, il y a pas beaucoup d'autres couleurs de peau, et c'est très embêtant, quoi, je trouve. Et toi, tu fais attention, mais par la force des choses, à un moment donné, ce monde des industries créatives et culturelles fait que c'est beaucoup des blancs, quoi.
Oui, c'est vrai. Alors après, ben oui, j'essaye. Après, j'essaye. C'est aussi, il y a des gens qui m'intéressent. Enfin, l'année dernière, Alice Diop, on a fait Kiddy Smile. Enfin voilà. Mais c'est vrai, c'est pas assez. Je peux pas te dire l'inverse. C'est pas assez. Après, j'ai une sensibilité à ça. Quand je faisais dans le genre aussi, mais tu vois, quand je faisais dans le genre, après, je me rappelle, j'avais fait une intervention là à Brest, là au truc du podcast, et puis il y avait des personnes trans qui étaient venues me voir et qui m'ont dit, vous invitez pas assez de personnes trans. Alors je dis, c'est vrai, j'en ai invité quelques-unes dans le podcast, mais j'ai dit après, c'est vrai que c'est pas parfait, je suis pas parfaite, et après aussi, faites votre truc, parce que vous allez le faire d'une façon qui vous ressemble à vous, et qui sera bien meilleure, quoi, tu vois, mais c'est vrai que c'est pas assez, je peux pas te dire l'inverse, et que c'est à la fois notre responsabilité, et c'est à la fois un reflet du monde dans lequel on vit, mais c'est vrai qu'on a une petite responsabilité, un petit levier, quoi, c'est-à-dire quand on peut promouvoir des figures plus inclusives, plus diverses. C'est génial de le faire, mais si tu regardes la presse, là, regarde, on a des magazines.
C'est deux vieux blancs qui sont...
Ouais, voilà. Donc bon, ben, c'est pas assez, voilà.
Ouais, c'est
emmerdant. On peut pas être content de ça.
Ouais, voilà. Ouais, c'est clair. Mais en même temps, comment tu le combats ? Enfin, comment tu t'obliges à le faire ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut aller interviewer des gens qui t'intéressent pas forcément ?
Après, ça fait quand même partie beaucoup de mes centres d'intérêt. Hein. Je veux dire, tout ce qui avait trait aux questions de normes, de sexualité. Je te dis, bon, j'avais fait dans le genre pendant 5 ans, et puis c'est des questions qui m'intéressent personnellement, et puis que je me suis beaucoup posé, tout ça. Donc, ça fait partie de mes centres d'intérêt. Enfin, centres d'intérêt, j'aime pas ça fait partie de qui je suis. Donc, en fait, ça fait partie de la façon dont je regarde le monde. Donc, en fait, ça va m'intéresser. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Mais après, sûrement que si la personne que t'interviewais aujourd'hui, c'était une femme noire, journaliste, eh ben, elle aurait peut-être. Elle serait appelée par il y aurait d'autres gens qui l'intéresseraient que moi. Peut-être que moi, il y a des choses que je vois pas, évidemment, quoi. Ouais.
Évidemment. On tire un autre mot?
Ouais.
Comment vendre? Parce que maintenant, tu es entrepreneuse. Enfin,
aussi?
En tout cas, tu es indépendante, tu es entrepreneuse. Il faut vendre ta cam. Il faut vendre ton produit, il faut vendre ton service, etc. Et,
oui.
et c'est vrai que c'est quelque chose... quand on est créatif, moi, par exemple, je suis très créatif, j'ai du mal à vendre, à mettre un prix. Et toi, maintenant que tu es dans cette position-là, comment t'as appris? Comment t'as assumé le fait de vendre,
oui, c'est pas
de
facile.
Vendre cher,
je suis d'accord
etc.
avec toi, je trouve ça pas facile. Je trouve ça vraiment pas facile.
T'as pas d'agent, hein. T'as pas quelqu'un qui te représente?
Non, pas pour l'instant. Je me suis posé la question. Après, au départ, quand j'ai monté ma boîte, j'ai bossé avec plusieurs personnes qui étaient, elles, plus fortes là-dessus, donc qui, elles, faisaient cette partie. Donc, voilà. Et après, à l'heure d'aujourd'hui, eh ben, je le fais moi. Et je travaille beaucoup, pour l'instant, avec des clients qui sont assez récurrents depuis 4-5 ans. Et donc,
t'as pas à renégocier.
Et c'est eux qui sont venus vers
moi.
C'est pas tellement. Enfin, j'ai pas été les chercher. Tu vois ce que je veux dire? J'ai jamais été. À part si j'avais vendu une fois un projet de podcast sur Eddy de Préto à Universal. Ça, c'est moi qui avais été le vendre, le proposer et le vendre. Mais c'est vrai que je trouve que c'est beaucoup de casquettes en même temps et que c'est quelque chose auquel je suis en train de réfléchir vraiment en ce moment. J'aimerais scinder ces choses et m'en occuper moins. Ça me plairait.
Ouais.
Je sais pas comment tu vis ça, mais je trouve que c'est beaucoup d'aptitude pour une seule personne.
Ouais, c'est difficile pour moi, je t'avoue. Après, j'ai un label de podcast qui m'accompagne et qui m'aide à trouver des sponsors.
Ah oui, parce que oui, toi, t'es dans une problématique de sponsoring.
Exactement.
Oui.
Moins de production, même si je produis un podcast pour Première Vision. Mais oui, c'est difficile de mettre un chiffre, de mettre un prix. Surtout que sur une industrie, bon, maintenant qui est plus complètement nouvelle, mais à l'époque, il y a 4-5 ans
un
en arrière, c'était un peu le Far West.
Tous les prix, un peu toutes les choses. Après, ça dépend pour quel type de client tu travailles. Après, il y a aussi, t'as quand même entendu parler de fourchettes dans le métier, de voir un peu les prix qui se pratiquent, et puis après après ce qui est difficile aussi, c'est voilà, il faut fixer sa valeur à soi. Ouais. Hein, il y a aussi ça qui, et puis après il y a des prix, il y a des grilles aussi, il y a des voilà, cet emploi un réal c'est temps par jour, voilà. Donc voilà, c'est un peu, mais c'est vrai que c'est, je trouve ça difficile.
Mais tu te vends cher alors, enfin t'es plutôt de d'avis à te vendre cher et faire moins mais mieux, quoi.
J'essaie de me vendre à la hauteur du temps et de la passion que j'investis dans ce que je fais. Voilà. Après, cher, pas cher, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas méga low cost. Moi, si on m'appelle et qu'on a un budget ridicule, trop petit, je vais dire, c'est pas ça qu'il vous faut. Parce qu'en fait.
Je saurais pas faire.
Non, je vais pas faire ça. Ou alors, il vous faut juste quelqu'un qui est vraiment tout seul, tu vois, qui enregistrerait tout seul, qui montrerait tout lui-même, qui. C'est possible, hein, aussi.
Bien sûr.
Mais c'est pas comme ça que je travaille, moi.
Parfait.
Tout ça demande un coût, je veux dire, ce dont on parlait, la qualité, la préparation, tout ça dans notre milieu, dans nos métiers, même tout ce qui est appelé couramment, ce que j'aime pas du tout d'ailleurs, mais tu sais, jus de cerveau, préparation, brainstorming, idée, tout ça, on a toujours la sensation, enfin, les gens ont du mal à payer pour ça, mais ça, oui. ça coûte aussi, c'est beaucoup de temps. Et en fait, quand tu passes 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours sur quelque chose, c'est 5 jours que je ne vais pas passer à faire autre chose ou à. Ça a un coût. En fait, quoi. Donc, il faut aussi arriver à donner de la valeur à ça.
Ouais.
Voilà.
Et c'est comme ça que tu chiffres, c'est le temps que tu passes dessus.
Le temps que je passe moi, la difficulté du projet, parce que c'est toujours pareil, en podcast, les gens me disent combien ça coûte. Je dis, mais ça dépend ce qu'on fait. C'est-à-dire, c'est comme si vous me disiez, on fait un film. Bah, ça dépend. Vous voulez qu'il y ait deux travelling, une grue, tu vois?
Bien
ou
sûr.
C'est juste un plan face caméra, en fait. Ça va pas être le même prix, en fait. Vous voulez qu'on vienne tourner 4 jours ou on tourne une fois? En fait, tout ça, j'ai une équipe de 5, je suis toute seule. Bon, bah, donc c'est du sur-mesure, c'est de l'artisanat sur-mesure à chaque fois. Mais évidemment, si tu multiplies le temps de préparation, le temps de tournage, tout ça, ben, bah, ça a un coût. Et la post-prod après, enfin le montage, quoi. Si c'est un projet qui est très complexe avec 6-7 intervenants, qui a beaucoup de montage, bah c'est plus cher, c'est normal.
C'est logique. Il y avait outils que tu avais tiré. T'as des outils en particulier qui t'accompagnent dans ton quotidien, dans ta vie et dans...
Des outils, tu veux dire comme quoi par exemple?
Je sais pas. Une to-do list, un agenda bien particulier, des choses.
Ouais,
qui
j'ai
te...
une to-do list. Ouais, j'ai une to-do list avec les gens avec qui je bosse. Bon, après.
En ligne.
Ouais, je trouve que Google Drive, ben, c'est affreux, mais c'est hyper bien fait, quoi. C'est hyper pratique.
Bien.
Oui, à plusieurs, c'est bien. Et puis voilà.
Comment tu architectures toutes tes idées? Enfin, ce qui m'impressionne dans ce genre de job, enfin, ce qui m'intéresse, c'est comment tu dois traiter beaucoup de data, donc, et beaucoup d'informations sur tes invités. Tu travailles sur plusieurs projets en même temps, avec plein d'intervenants différents. C'est qu'à un moment donné, tu as dû mettre en place un système. C'est ça qui m'intéresse. C'est quels sont les outils que tu utilises qui font que, bah, tu dors paisiblement la nuit.
Je fais beaucoup de listes, moi. Beaucoup de listes de choses à faire. Et je priorise beaucoup les choses. Et puis j'essaye de les déléguer aussi. Voilà, hein, parce que ça, c'est un peu la clé. Mais je te dis, on a une to-do list partagée avec les gens avec qui je bosse selon les projets. Et puis, on a mis en place des process, un peu comme dans la presse, quoi, avec des suivis de prod, en fait. C'est assez classique, hein. Y a rien de... Et après, moi, je fais tout le temps des listes.
C'est quoi un suivi de prod, par exemple?
Bah, suivi de prod sur le goût de M, ça va être... Bah, c'est un tableau Excel avec, tu vois, la prépa doit arriver tel jour, l'enregistrement est tel jour, la déclaration des intermittents est faite, oui, le montage, la première version V0 arrive tel jour, on la réécoute tel jour, on l'envoie au monde tel jour, on la recoupe tel jour, j'enregistre mes micros tel jour, on envoie la version, on réécoute et on envoie la version finale tel jour. En gros, par exemple, c'est détailler toutes les opérations comme ça, et puis ça, une fois que c'est mis en place par projet, bon, bah, tu suis, tu vois, mais donc... ça, des to-do list, des boucles WhatsApp, pas mal, par projet, par collaborateur. Ouais.
Un vélo.
C'est tout, hein, je crois.
Ouais, t'as pas de trucs avec de l'AI, de l'intelligence
avec
artificielle
quoi
avec,
Non.
Non.
Moi, je suis un peu non là-dessus, non, pas encore.
T'as pas de rapport, non.
Non, j'ai pas de rapport à ça, non.
Ouais.
Non.
Ok.
Non. Toi, oui.
J'essaye.
Non, mais c'est intéressant.
Je m'y intéresse. Je regarde comment je peux l'utiliser, ouais, pour automatiser certaines choses. Non, ce qui est vraiment intéressant sur l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui est montage, amélioration du son. Comme moi, je fais beaucoup de choses par moi-même et que j'ai pas d'ingé son, tu vois, le fait de, si ton son est pourri, tu peux vraiment le rattraper avec certaines applications, avec Adobe Enhance. J'ai une problématique de communication sur les réseaux sociaux. T'as un truc qui s'appelle Oculus ou Opus qui va aller chercher les passages intéressants, qui va te proposer 20 passages intéressants dans ton podcast.
Ah ouais,
ouais, et qui te sort la vidéo, les sous-titres, etc. Et ouais, ça te fait gagner un temps fou, tu vois, quand t'es tout seul.
Parce que toi, t'es tout seul.
Moi, je suis tout seul.
Ah oui, donc c'est impressionnant quand même. Mais c'est beaucoup de boulot.
Ouais, c'est beaucoup de boulot, mais bon, je pense que je prépare forcément moins que toi. J'ai pas quelqu'un qui prépare, qui
oui,
m'alimente.
Oui.
Je fais pas de montage. Je...
Oui, oui, t'as pris d'autres options, mais voilà, qui te permettent de faire ça seul. Mais c'est impressionnant déjà, je trouve.
Ouais, c'est gentil, merci. On continue. Ouais. T'as encore un petit peu de temps.
Ouais. Alors, profiter de la vie. On en a parlé un petit peu. Hein. Ça, c'est.
C'est la clé. C'est. T'as l'impression d'en profiter ou tu. Tout à l'heure, tu disais que tu avais fait ce choix, voilà, de rester à Paris et de t'être coupé au Pays Basque. C'est une grande question pour moi quand même aussi en ce moment.
Quoi donc ? Paris, pas Paris ?
Paris, pas Paris, mais tout le monde se la pose, tu vois, cette question. Ouais. Et maintenant que j'ai un petit bébé qui a 16 mois et que je me dis, moi j'ai grandi à la campagne aussi, enfin à la campagne en tout cas en région, et c'est vrai qu'imposer Paris, qui peut être assez intense, anxiogène en plus en ce moment, avec ce qui se passe dans le monde, d'insécurité, etc., c'est un peu flippant, tu vois.
Ouais.
J'ai mon frère qui doit venir la semaine prochaine avec son fils pour faire un stage en pâtisserie. Il se pose la question de venir à Paris parce qu'il sent qu'il y a une pression, il y a peut-être des risques, plus de risques d'attentats, etc. Et puis se rapprocher de la famille aussi. Tu vois, ce sujet de je suis loin de mes parents, je suis loin de mon frère, etc. Et je passe à côté de certaines choses.
Ça te pose question, en fait
ouais, ça me pose vraiment question. Et j'ai l'impression que toi aussi, t'as dû passer par là à un moment donné. Et faire ce choix, il y a un truc très égoïste de rester à Paris parce que tu te dis, j'ai accès à Paris à des gens que j'ai envie d'interviewer, à plus de. Professionnellement, c'est sans doute plus intéressant. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de faire. Mais en même temps, tu te coupes de choses hyper importantes dans la vie et que tu pourrais regretter dans le futur. Et je trouve que c'est difficile de choisir.
Oui, après. Moi, j'ai quand même. Bah, toi, t'es de quelle région ?
De mes parents vivent à Annecy.
Ah oui, oui, d'accord, une belle région aussi. Oui, moi, ce qui me manque le plus, c'est ça. C'est l'accès, c'est l'océan, c'est l'accès à la nature. Mais après, ça me manque. Mais en même temps, je crois que je suis hyper citadine, quoi. C'est-à-dire que même quand j'étais là-bas, moi, j'ai vécu 18 ans. Donc, j'ai pas d'idéalisation de la province, moi. J'ai vécu. Tu vois,
c'est vrai qu'alors qu'un Parisien qui ne connaît que Paris, il idéalise vachement. Alors qu'en fait, c'est chiant. On se fait chier.
Ben moi, je me faisais chier. Moi, j'avais envie de partir. Moi, j'avais envie de. Bon, à l'époque, j'avais envie d'aller voir des concerts. J'avais envie de rencontrer des gens qui me ressemblaient. J'avais envie du renouvellement de la ville aussi. Tu vois ce que un truc que j'adore dans le fait d'habiter à Paris aussi, c'est que je rencontre pas tout le temps, mais je rencontre des nouvelles personnes dans ma vie, des nouveaux amis, des nouveaux amours. Je sais qu'en province, c'est tout à fait possible. Je suis pas en train de cracher dessus, loin de là. Mais moi, en tout cas, je parle juste pour moi, je trouvais ça plus restreint comme cercle, plus comme possibilité, comme même si les villes ont beaucoup changé. Je pense que même Biarritz aujourd'hui n'a rien à voir avec le Biarritz dans lequel j'ai grandi. Je lisais un papier dans Le Monde là cette semaine qui parlait de ça. Il disait les locaux ne reconnaissent plus l'endroit dans lequel ils ont grandi et ça devient, il y a beaucoup de CSP++++ qui s'installent, tout ça, machin. Bon, télétravail, et je pense que le territoire change, le type de personnes que tu rencontres change. Enfin, donc, je veux pas parler pour aujourd'hui, je connais pas. Mais moi, en tout cas, ça m'a attiré dans la ville et ça continue à me plaire. C'est-à-dire cette espèce de possible, et c'est pas que des possibles parce qu'il y a aussi de la réalité là-dedans. J'aime aussi le fait que le soir, c'est plus animé. Alors, je sors pas tous les soirs, hein. Vraiment, je suis assez casanière, mais j'aime bien que quand même les choses soient ouvertes, que je puisse aller voir des spectacles, que tu vois. Enfin, je trouve que finalement, c'est cool de pouvoir se déplacer en vélo ou en transport en commun rapidement, d'aller rejoindre des gens rapidement. Enfin. Il y a une vie sociale qui me plaît, moi, ici. Donc, il y a plein de choses qui me plaisent. Après, les questions, elles se posent avec de plus en plus d'acuité, je trouve, avec les années qui passent. Et puis aussi avec tous les bouleversements qu'on a connus. Bon, le Covid, tout ça, ça nous a vraiment amené à poser beaucoup de questions, je pense. Effectivement, profiter de la vie, pour moi, c'est trouver un équilibre qui me correspond. Et je pense que si j'étais à plein de temps à la campagne ou au bord de la mer. Bon, c'est plus au bord de la mer. Je sais pas si je serais très heureuse, en fait.
Ouais, tu aurais peut-être l'impression de passer aussi à côté de ta
vie. En fait, moi, l'idéal pour moi, ça serait d'arriver à avoir plus de temps libre et de me partager entre deux endroits. Mais en tout cas, moi, mon métier, je dis pas que c'est impossible, mais je vois pas trop comment je pourrais le faire en n'étant pas à Paris. Parce que c'est pas, on dit aujourd'hui, oui, les technologies, les machins. Alors oui, bien sûr. Limite, toi, tu pourras enregistrer à distance, trouver un truc, pourquoi pas. Mais c'est aussi être dans un certain bain, dans un certain réseau, connaître les gens, avoir les idées, avoir tout ça en fait, toutes ces informations qui nous arrivent, sans, on s'en rend même pas compte en fait, mais c'est parce qu'on vit là, parce qu'on connaît tel et tel type de personne, bon, et tout ça fait que t'es bon aussi dans ton boulot, enfin je sais pas, je pense pas que je pourrais le faire en étant à la campagne
à monter deux jours par, par semaine,
ouais. Oui, mais alors ça j'adore pas ce mode de vie là non plus, moi. Mais voilà, donc profiter de la vie, eh ben, c'est un but, c'est essayer de plus en plus en profiter. Je peux pas dire que j'en profite à fond, j'essaye d'en profiter le plus possible, quoi, et de me garder des espaces pour en profiter, que le travail bouffe pas tout aussi. Ça c'est un truc, faire attention à ça. Donc voilà, enfin
le réseau, c'est enfin le réseau, en tout cas le network, c'est quelque chose que tu entretiens pour arriver à attraper toutes ces personnes. Alors ça fait longtemps que c'est ton milieu, etc., mais à un moment donné, tu vois, moi je vois avec mon podcast, je rencontre plein de gens, mais et tu passes un moment quand même assez intense avec quelqu'un pendant 2 heures, il se passe une vraie connexion. C'est très rare d'avoir 2 heures comme ça sans téléphone avec quelqu'un, ça n'arrive plus en fait. Et c'est vrai que j'arrive à garder le contact avec certaines personnes, mais souvent quand même la plupart du temps tu perds de vue, c'est dommage, c'est triste, je trouve. T'as la même chose toi, ou t'arrives à garder un contact avec les gens
que j'interviewe? Garder un contact dans le sens où ils vont s'en souvenir et qu'on risque de se re-rencontrer professionnellement, tu vois, ou parfois dans des événements ou des choses comme ça. Mais je veux dire, ce sont pas mes amis. Et ce sont pas des gens qui deviennent mes amis, ou à de très rares exceptions. Mais c'est pas la même chose. Et je pense qu'il faut pas confondre ça non plus. Après, pourquoi pas, ça peut arriver. Mais c'est pas cette relation-là non plus, en fait. Et donc, j'ai pas des gens avec qui j'échange des textos, si tu veux. Non. Après, aujourd'hui, il y a Instagram, donc ça arrive que tu postes ton truc et tu reçois un message et parce que la personne était contente, parce qu'elle a un truc à te dire, et très bien. Mais généralement, ça va pas plus loin que ça, tu vois. Enfin, c'est pas... On travaille ensemble, on n'est pas des amis. Voilà.
Intéressant. T'es devenu connu quand même. T'es une personnalité connue. On te reconnaît dans la rue.
Identifié peut-être, voilà, dans mon travail.
On reconnaît ta voix. Quelle relation t'as à ça? Est-ce que ça te gêne ou pas?
Je suis pas, tu vois.
Tu t'arrêtes pas quand tu fais tes courses.
Non, c'est pas une notoriété très grande ou gênante ou.
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Très bien.
Non. Donc, c'est le peu de fois où ça m'est arrivé que des gens m'aient reconnu ou dit qu'ils sont venus me voir ou qu'ils m'écrivent, parce que je reçois des messages sur Instagram super cool, généralement de gens qui me disent qu'ils jardinent ou en écoutant le podcast. D'ailleurs, je suis très fière et très contente d'être insérée dans les usages, dans la vie des gens. Tu vois ce que je veux dire?
Quand tu cuisines,
qu'on soit un médium qui ait sa place dans le quotidien des gens, parce que je pense que ça c'est super important et que c'est un rapport que j'avais au magazine avant et que j'ai perdu à un moment.
Et puis c'est très accessible comme truc. C'est gratuit, c'est tout le monde y a accès. On parlait de futur, je crois pas qu'on ait abordé vraiment le futur. C'est comment t'imagines ton futur? C'est quoi le... Qu'est-ce que t'as envie de achieve, comme disent les Anglais?
Je trouve que c'est super dur de se projeter, peut-être encore plus depuis qu'il y a eu le Covid et tout. Enfin, je sais pas comment dire là. C'est très très dur de se projeter dans le monde dans lequel on vit aussi. Et puis moi, tu m'aurais demandé il y a 5 ans ou il y a 8 ans ce que j'allais faire, j'aurais jamais pu te dire que je serais en train de faire ce que je suis en train de faire. Enfin, et en même temps, il faut avoir confiance en soi, en ses aspirations profondes, puisque je te disais par exemple, je m'étais demandé qu'est-ce qui m'intéressait vraiment, c'était des interviews longues avec des gens, et finalement je me suis retrouvée à le faire. Bon, un truc que je remarque dans ma vie, c'est que je me retrouve toujours en train de faire finalement les trucs dont j'ai vraiment envie, je les fais, je sais pas comment te dire, enfin ça se fait, tu vois, enfin c'est même pas de l'ordre de la décision, ça s'impose à moi. Donc je me dis, j'en sais rien, mais j'ai confiance, tu vois. Et je suis pas capable de te faire un plan, de te dire dans 3 ans, je fais ça, j'intègre tel truc, finalement...
T'as pas un vision board,
non.
Géraldine?
Je sais même pas ce que c'est, explique-moi.
Au top du game. Non, tu sais, ça, c'est très Dev
Perso. C'est un plan de. C'est un plan. Ouais, vas-y,
tu fais, c'est génial. Mais tu découpes des photos. Par exemple, je sais pas, t'aspires à devenir une chanteuse très connue. Tu vas prendre une chanteuse très connue, tu vas la placarder, et puis tu veux vivre dans un palais à Paris, etc. Donc tu vas. Et tu le regardes tous les matins, et puis au bout d'un moment, ça va.
Tu veux me dire que ça existe vraiment? Enfin, il y a des gens
qui font
ça.
Bien sûr, il y a plein de gens qui font ça, bien sûr.
D'accord. Ouais. Bah alors non, alors moi, mais vraiment pas.
Non. Mais t'as pas t'as pas d'envie particulière. T'as pas un rêve qui te dit j'ai envie de dans ton métier. Je me dis que j'aurais envie d'être je sais pas rédac chef de M Le Monde par exemple, prendre la place de.
Salut Marie-Pierre. Alors.
De Marie-Pierre.
Non, je me dis pas ça. Pour l'instant, je te dis les envies qui sont nées. Je suis en train de les faire pour l'instant, qui a été donc de faire des podcasts, créer ma propre structure, m'en sortir un peu par moi-même.
Ce que je veux dire, c'est qu'elles, tu les as écrits à un moment donné. Enfin, tu les as peut-être pas écrits noir sur blanc, mais en tout cas, à un moment donné, tu en as, t'as eu un fantasme de ça, t'as eu une envie de ça, et j'ai l'impression que ça fait avancer quand même ce truc.
Oui, mais alors ça, c'est pas des choses que je peux décider. Ça vient à un moment. C'est comme des j'arrive pas à trouver le bon mot, c'est pas des phases mais des cycles dans la vie, en fait c'est des cycles, et en fait je sais qu'à un moment quand j'arrive à la fin d'un cycle que j'ai besoin de renouvellement, parce que j'ai toujours besoin de renouvellement, c'est comme ça, et qu'il y a une nouvelle curiosité qui va arriver, qui va s'imposer à moi, et ben là je vais écrire des choses, et là je vais mettre en place des choses. Là pour l'instant je suis dans un temps qui est de structuration, de construction, de développement, et ça me prend déjà beaucoup de temps de l'acquis, de, tu vois, de essayer de développer tout ça, prendre un peu de recul, tu vois, il a fallu lancer tout ça, bon, ça a été beaucoup de travail, hein. Il y a eu beaucoup de choses de faites depuis 5 ans, et maintenant c'est essayer de voir comment on peut se déployer un peu différemment, tu vois, enfin, c'est se rendre compte de choses, comme tu disais tout à l'heure, il y a des tâches que je n'aime pas faire, quelles sont ces tâches que je n'aime pas faire, qui pourrait les faire pour moi, enfin tu vois, je suis vraiment à cette étape là donc finalement rêver de la suite, j'en ai pas encore l'espace dans ma tête, tu vois,
d'abord tu structures,
en ce moment je suis dans un temps de construction, de consolidation, et d'essayer de, j'aimerais bien par exemple au sein de cette structure là j'aimerais bien qu'il y ait des nouveaux projets qui rentrent, enfin qu'on développe des nouveaux projets qui seraient pas portés par moi par exemple, c'est-à-dire ce serait pas moi qui hosterais, tu vois, de travailler avec d'autres gens, j'ai envie de ça, un peu de plus de travail d'équipe, et en affinant un champ de compétences qui serait ce champ de la culture, voilà. Donc voilà, ça me plairait bien, en fait, de construire mon petit modèle à moi, tu vois, j'en suis là. Après j'aime toujours la radio, alors, mais j'en rêve pas la nuit, mais ouais, je trouve ça génial, j'aimerais bien un jour refaire de la radio, je pense. Voilà, et après j'ai pas pour l'instant de grands rêves ou grands objectifs que je serais pas en train de réaliser, tu vois, je me dis pas j'aimerais faire des films, mais je suis pas du tout en train de faire ça, donc ouais, pour l'instant toute mon énergie elle est prise par ça, par essayer de penser cette structuration et un développement.
Tu es très aligné finalement.
Bah, je sais pas, mais c'est accepter à un moment, enfin, qu'on fonctionne comme on fonctionne chacun, en fait, tu vois, et moi je remarque que je fonctionne comme ça. Et donc, que ça va s'imposer à moi à un moment, le changement. Mais que ça sert à rien que je...
Que tu te prennes la tête sur le sujet.
Non. Artificiellement, ou que je fasse un vision board, parce que c'est pas moi, en fait. Voilà.
Je peux t'en faire un, si tu veux, vision board. Si tu devais recommencer à zéro...
L'en faire un avec Laura Adler, tout ça.
C'est ça. Ouais. Laura Adler. Si tu devais recommencer à zéro, si, ou peut-être pour poser la question différemment, c'est est-ce que tu aurais fait des choses différemment dans ta carrière? Dans ta vie tout court. Hein.
Oh, je ne sais pas répondre à ça. Est-ce que j'aurais fait des choses différemment?
Est-ce que tu as l'impression d'avoir perdu du temps parfois?
Un petit peu au tout début, parce que je pense que j'aurais pu aller vers... j'ai mis un peu de temps, mais pas tant que ça, à rentrer vraiment dans le journalisme culturel qui me plaisait. Enfin, j'ai perdu 2-3 ans. Enfin, c'est pas perdu, parce qu'en même temps, j'ai fait de la prod audiovisuelle, ça m'a servi après, bon, tu vois, d'avoir un peu des compétences de prod et tout, ça me sert aujourd'hui. Mais
c'est vrai.
J'aurais aimé peut-être parfois... avoir un accès plus direct aux choses, aller plus directement, être moins empêché, être moins névrosé, être tout ce qu'on est, tu vois ce que je veux dire. Ça peut être que ça, c'est-à-dire arriver plus directement à un rapport de simplicité aux choses, en fait, ce que j'ai mis des années à acquérir, voilà, mais c'est impossible puisque on est comme on est, tu vois, mais si je pouvais souhaiter quelque chose, ça serait ça, voilà, ça serait
être plus droit au but, c'est ça, avoir un regard plus simple sur les
plus
choses,
plus simple, être plus simple, moins empêché parfois d'oser davantage certaines choses, de mettre moins de sentir plus légitime, plus vite, tu vois. Enfin, j'ai mis du temps à acquérir ça. Et en fait, bah, j'aurais souhaité que tout soit la même chose, mais plus rapide, plus facile, plus simple. Plus, tu vois, enfin.
Mais ça peut être plus facile, plus simple, où il faut forcément bouffer son pain noir, ou en tout cas.
Ah ben moi, en tout cas, j'ai pas pu faire autrement, puisque. Mais tu me demandes si j'avais pu changer quelque chose, j'aurais aimé finalement aller plus vite d'une façon, tu vois.
Mais tu vois, qu'est-ce que tu pourrais dire à la petite Géraldine qui a 17 ans, 18 ans avant de monter à Paris, etc., pour que ça soit plus fluide, plus simple en fait, et que tu passes pas par toutes ces phases.
Enfin, ça va, c'était pas non plus, tu sais pas, c'était pas non plus, tu vois, finalement, c'était pas, j'ai mis un tout petit peu de 2-3 ans avant de rentrer aux Inrock, après je suis resté très longtemps, enfin, mon parcours il est pas non plus éparpillé, tu vois, enfin, et j'ai réussi à aller pile à l'endroit où je voulais aller. Donc en fait, non, je dirais que qu'il faut qu'elle ait confiance, que ça va bien se passer, en fait, c'est ça. Mais c'était pas, je me suis pas complètement égaré à aller travailler dans un secteur qui me plaisait pas du
tout.
Dans
la banque, ouais.
Oui, voilà. Bon, par exemple, j'aurais pas été très bonne, mais tu vois, en fait, c'est pas ça. Non, non, je pourrais lui dire qu'elle ait plus confiance, peut-être. Qu'elle ait confiance que ça va bien se passer.
T'as confiance maintenant.
Maintenant, oui.
T'as très confiance.
Pas très, mais suffisamment. Encore une fois, j'aime bien Winnicott. Moi, tu sais, suffisamment, c'est bien comme mot.
Suffisamment. C'est pas mal, ça. Ouais.
Ça, tu veux le mettre dans tes petits mots. Suffisamment.
Suffisamment. Suffisamment.
Ça non, fait mais un c'est... peu chanson de France Gall en même temps, mais.
Écoute, j'avais préparé, franchement, je sais pas si ça va marcher ou pas, mais écoute, on le fait quand même.
Ok.
C'est un interview.
Quelle surprise.
Le goût de M.
Ah ! Waouh !
Mais j'aimerais que c'est toi qui poses les questions, parce que t'as vraiment une voix incroyable, et ça peut être que toi qui poses ces questions-là.
Ah, mais tu veux que je pose des questions et que j'y réponde ?
On n'est pas obligé de toutes les faire, mais tu peux en faire une ou deux, c'était
ah, mais non, question mais récurrente. Ah, mais non, il faut que ce soit toi qui les pose, non ? Je vais pas les poser et y répondre.
Pose-les et puis je te les reposerai. Mais juste, j'aimerais bien enregistrer ta voix qui pose
la
question.
Alors, Géraldine Saratia, nous sommes chez vous. Est-ce que cet endroit vous ressemble ? Alors, cette question, tu vois, eh ben, je me rends compte que elle est conne, cette question. Et elle est compliquée. À chaque fois, les gens sont là. Ah ! Tu vois, enfin, il y a un truc. Et tu me la poses. Est-ce que cet endroit me ressemble ? Bah oui. Oui ? Oui, 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 il me ressemble, puisqu'en plus, c'est un appart que on a tout cassé, j'ai refait, et donc j'ai choisi chaque chose, ça a été difficile, j'ai pas fini, tu vois, c'est encore un peu en bazar, et puis tout est pas encore aménagé, tout ça, mais il y a des trucs qui me ressemblent, dans le sens où... Et en même temps, ce que j'ai découvert, tu vois, c'est que c'était pas hyper facile de l'investir, que je mettais du temps à choisir les choses, quoi, que j'avais du mal à choisir les choses, en fait... Donc voilà, mais ça me ressemble, j'aime beaucoup cette table, tu vois, Aircol, là, sur laquelle on discute, j'aime ces carreaux que j'ai choisis, donc j'aime bien, c'est un peu, on va faire comme dans l'émission, quoi, c'est un peu, c'est blanc,
décrire, ouais.
C'est un peu moderne, j'essaye que ça devienne chaleureux, j'essaye qu'on s'y sente à l'aise, il y a un bar là pour que mes amis puissent boire des coups, qu'on puisse manger des tapas, voilà, et puis, et je vais essayer, comme je suis hyper bordélique, qu'il n'y ait pas trop de choses. Parce que j'aime bien quand ça reste un peu vide. Voilà, j'ai réalisé que je me sentais bien quand ça restait un peu vide. Et puis, j'adore, ici, j'ai acheté mon appart ici parce que j'ai vu sur le canal et que l'eau, c'est hyper important pour moi.
Bah oui, toi, t'es...
Vraiment hyper important.
Du Pays Basque.
Et puis voilà, et puis c'est vraiment un truc, j'ai besoin de voir de l'eau.
En plus, bientôt, tu pourras te baigner.
Mais je me suis déjà baigné une fois, mais alors j'ai pas adoré, hein, je t'avoue. Mais j'attends encore un peu, quoi. C'est un peu, tu sors, t'es là.
Ouais, c'est un peu voilà. Dur, ouais.
Donc je dirais que ça me ressemble pour ça. Tu vois, c'est un endroit dans lequel j'espère on se sentira bien. C'est assez simple et on voit de l'eau. Et il y a du soleil. Très important pour moi quand j'ai un appart, c'est qu'il y a de la lumière et qu'il y a du soleil direct qui rentre.
T'es pas bien quand il y en a pas ?
Non, ça a presque un impact sur mon humeur, quoi. Ça me rend un peu mélancolique, un peu triste, un peu...
Tu es de nature mélancolique, nostalgique ?
Non, alors plus. J'étais assez mélancolique quand même. Je me suis bien soignée là-dessus, mais nostalgique, non. Non.
Parce que t'as une voix nostalgique, mélancolique, je trouve, non ?
Ah bon ?
Ouais.
Bah ça, je sais pas.
Ouais.
J'ai une voix nostalgique ?
T'as une voix, mais... Je sais pas, c'est peut-être t'as peut-être une voix rassurante aussi. C'est peut-être ça qui fait qu'il y a une sorte de nostalgie.
Ouais,
parce que
la nostalgie n'est pas un truc qui m'intéresse. Justement, le regret du lieu d'origine dont on parlait, tu vois, ça, je crois que c'est une question que j'ai travaillée. Mais...
Tu fuis la nostalgie ?
Ouais. Ouais. Et la mélancolie, eh ben, je trouve qu'il faut. On peut avoir des pentes mélancoliques. On peut. C'est pareil, quoi. Il faut travailler l'instinct de vie en soi. Il faut. Si jamais ça arrive, eh ben, faut aller à la piscine, quoi. Non, c'est vrai.
C'est vrai.
Faut aller nager. Ouais, ouais. Nager, faire un truc. Ouais. Faire du sport. Changer, couper. changer d'état, et voilà quoi. Mais
c'est arrivé dans la journée, par exemple, tu te lèves un matin.
Mais je suis pas une personne mélancolique, hein. Mais il y a eu des années où je l'étais davantage. Encore que c'est un mot fort, mais pour avoir des petits coups de blues, quoi, tu vois, je pouvais avoir ça. Mais aujourd'hui, je sais vraiment j'en ai beaucoup moins. Et puis, si ça m'arrive, eh ben, je sais que j'ai un peu le mode d'emploi. Ouais, voilà.
Piscine.
Ouais, par exemple, ouais. Changer d'état.
Quel est le goût de votre enfance, celui dans lequel vous avez grandi?
Des embruns du vent là justement et du vent sur la plage, tu vois, qu'il fouette le visage là et de sentir l'odeur de la mer. C'est l'odeur de la mer, le goût de mon enfance.
Très bien.
Et de l'océan Atlantique plus particulièrement parce que c'est encore différent.
On va écourter, on va pas faire toutes les questions. Mais j'aime bien celle-ci quand même. C'est diriez-vous que vos amis ont du goût? Je trouve qu'elle est dure celle-là quand même. Non, ils ont des goûts de chiottes.
Plus ou moins. Il y en a qui vont avoir très bon goût, entre guillemets, c'est-à-dire, qui vont avoir beaucoup de goût, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une singularité très affirmée et qu'ils extériorisent. Et donc, on va le voir chez eux, ou qu'ils vont avoir une finesse dans la façon dont ils parlent des choses. Est-ce que je peux avoir un goût très, très pointu ou aimer des choses? Voilà. Et puis, il y en a d'autres moins. Ils ont leur goût, en fait. Mais je pense pas que ce soit un critère de sélection de mes amis, en fait. Voilà.
Oui. Dernière question, qu'est-ce que ça veut dire pour vous avoir du goût?
Mais ça c'est dur parce que nous on y arrive après une heure et demie d'entretien avec les gens. Donc, mais avoir du goût, ça a à voir vraiment avec une histoire de singularité, d'assumer sa singularité. On a parlé de plein de trucs dans ton entretien, c'est-à-dire à la fois dans les choses positives qu'on a en soi, des échecs, aussi les trucs un peu moins reluisants de soi, mais assumer sa singularité. Accepter qui on est, savoir du coup, je dirais ça, accepter, arrêter de se battre contre, ben non, je serai jamais comme ça, non, mais par contre, si on arrête de perdre cette énergie-là, et qu'on est plus centré, en fait, finalement, c'est être centré aussi, avoir du goût pour moi, être aligné, tout ce que tu disais, c'est-à-dire être en accord avec soi-même, je pense que c'est comme ça aussi qu'on arrive à avoir la plus grande disponibilité avec les autres, parce que finalement, c'est aussi... être en lien, avoir du goût.
Mais ça, je trouve que c'est souvent long et laborieux. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça a été long et laborieux pour arriver à ça. Il n'y a pas de raccourci, malheureusement.
Après, ça dépend avec quoi on part dès le départ. Il y a des gens pour qui c'est moins laborieux, des gens qui c'est plus laborieux. Ça, c'est la grande inégalité, une des grandes inégalités. Il y en a d'autres. Mais voilà. Mais comme tu dis, après, c'est du temps. Mais ça aussi, il faut accepter le temps.
Il faut l'accepter, l'embrasser. Dernière question, c'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast? J'aime bien poser cette question pour transmettre le relais. Ouais.
Je connais pas tous les invités, donc je vais peut-être dire des noms.
Ils sont déjà passés, ouais.
Ah, tu me dis si jamais ils sont
déjà
passés.
Pas grave, tu peux m'en dire plusieurs, c'est pas grave.
Bah, peut-être j'aimerais bien que tu fasses, par exemple, Marie-Ange Luciani, qui est la productrice d'Anatomie d'une chute, mais de plein d'autres films. Enfin, qui est une productrice assez géniale dans le cinéma français actuel. Je trouverais qu'elle serait super intéressante. J'imagine que, je sais pas si t'as déjà fait Lucien Pagès, que je trouve qui a construit un truc fou quand même.
Moi, je l'avais fait il y avait longtemps.
Tu l'as déjà fait. Donc voilà. Qui c'est que j'aimerais que t'interviewes encore? Ça, c'était en cinéma. C'est industrie créative. J'aimerais bien aussi, j'ai pas forcément des noms, mais j'aimerais bien que tu interviewes des gens qui sont un peu en train d'inventer des nouveaux modèles dans les industries créatives, culturelles. Je pense, je sais pas, par exemple, même la façon dont les éditions de la Goutte d'Or pensent comment est une maison d'édition aujourd'hui. Enfin, je connais pas en interne, mais certaines personnes qui travaillent, pourquoi pas sur un studio de podcast aussi, enfin, des nouvelles industries ou des gens qui auraient lancé un titre de presse aujourd'hui. Ça m'intéresserait vachement d'entendre comment la jeune génération pense ça aujourd'hui, quels sont les nouveaux modèles, comment ils pensent. Ça m'intéresserait. Après, toi, tu veux un nom célèbre?
Pas forcément. Hein. J'aime bien ce côté young blood.
Ça m'intéresserait parce que j'apprendrais plein de trucs. Enfin, ça serait cool. Après, j'aimerais bien que tu fasses aussi, John Galliano. Je sais pas, ce serait intéressant par exemple. Dans les créateurs, hein, dans les créateurs. Phoebe Philo qui revient.
Bah ouais, Phoebe, ouais.
Ça serait génial.
Ça serait génial, ouais. Je suis pas sûr qu'elle accepte Phoebe.
Ouais, voilà,
tu fais pas l'étranger, toi c'est...
J'ai pas fait encore.
Ouais.
Non,
mais t'essayes pas d'aller chercher.
J'ai pas essayé, non. Parce que après, c'est.
Toi, t'as quand même une force de frappe. Tu peux avoir tout le monde, quoi. Ça serait quand même incroyable. Après, le sous-titrage, tu peux avoir une voix qui couvre par-dessus. C'est quand même cool. Mais d'avoir accès à des stars américaines ou anglo-saxonnes, c'est quand même ouf. Ou même japonaises.
Oui, on n'a pas, pour l'instant, on n'a pas essayé. Il faudrait que j'en parle avec Marie-Pierre Lannelong. Mais après, c'est la question du doublage, parce que 40 minutes doublées, c'est long quand même. Enfin, toi, tu doubles 1h40 du coup ?
Moi, je double 1h40, sans problème. Après, je mets les deux versions. Je mets la version française et la version anglaise. Et beaucoup de gens parlent anglais. Donc, à un moment donné, ils écoutent directement.
Ouais.
Mais j'ai pas envie de mettre de côté tous les gens qui parlent pas bien anglais. Et écouter quand même 45, 1 heure ou 2 heures de podcast qu'en anglais, c'est fatigant. Donc, à un moment donné.
Tout à fait.
C'est intéressant quand même d'avoir les deux.
Non, mais il faudrait qu'on en parle. Et puis, bon, après aussi, c'est qu'on essaye quand même de garder ce principe d'aller chez les gens et de garder une intimité. Donc, même si c'était des étrangers.
Ouais. Mmh.
Oui, parce que sinon, enfin, ou alors il faudrait faire un autre concept, quoi. Mmh, voilà. Mmh. Mais pourquoi pas, c'est ouvert. Hein.
Mmh, mmh. Mmh. Trop bien. Mmh. Merci infiniment, Géraldine.
Merci, merci à toi.
Salut.
Je m'appelle Adrien Garcia et vous venez d'écouter The Bold Way. The Bold Way, c'est aussi une newsletter dans laquelle je vous partage un email par semaine rempli de contenu exclusif, d'idées innovantes et de ressources précieuses pour vous aider à surmonter vos défis et tracer votre propre chemin. Inscrivez-vous dans les notes de cet épisode ou sur theboldway.fr. Last but not least, la meilleure manière de m'aider est de partager ce podcast autour de vous. Si cet épisode vous a aidé ou touché, partagez-le à vos proches et à vos amis. Merci pour votre confiance et à bientôt pour un nouvel épisode.